Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 5. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email. Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. L'adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer... justement des témoignages, ou simplement une information, une coupure de presse, une question à poser, ou si vous êtes un, comment dirais-je, un soutien, un donateur de démocratie participative, eh bien nous signifier que vous avez fait un don, soit pour vérifier, soit tout simplement pour que on vous remercie à l'antenne, comme on aime le faire. Alors, je vais présenter maintenant les membres de cette semaine. Je vais commencer avec Porovitch, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Retour de Porovitch pour cette émission. J'espère que tu vas bien, Poro. J'espère que ça gaze, quoi.
Ça gaze. Oui, shalom alaikum à tous. Oui, de retour après un stage en forêt noire d'un an, je suis OP.
Très bien. Pierrot est aussi avec nous cette semaine. Salut, Pierrot.
Salut Gandalf, salut à tous.
Fulbert, présent, fidèle au poste comme toujours. Comment vas-tu, Fulbert?
Fulbert va bien.
Merci. Formidable.
Bonjour Gandalf, bonjour à tous.
Diabolix nous fait aussi le plaisir d'être avec nous pour sa deuxième participation à l'émission. On est content de l'avoir avec nous. Les retours sont positifs, Diabolix, je tiens à te le dire. Les courriers reçus vont en ce sens.
Salut Gandalf, je compte prochainement me lancer dans la fabrication d'un crématoire. Je ne sais pas pourquoi, c'est une idée comme ça.
Ah ouais,
Bonjour à tous.
Une rôtisserie donc.
Tout à fait, oui, c'est pour le poulet, enfin un certain poulet.
D'accord. Est enfin avec nous l'autorité spirituelle de l'émission, Derek, cardinal bien évidemment de l'église de Négrolatrie et également spécialiste de négrologie, hein, émérite. Comment vas-tu?
La sapience porte à merveille, cher ami.
Par contre, mes condoléances tout de même. J'ai appris pour 20 de tes disciples qui malheureusement sont morts en Tanzanie, à la vue de l'huile sainte qui a été répandue sur le sol, eh bien, ils ont voulu atteindre la salvation en touchant, et malheureusement, ils se sont marchés les uns sur les autres, 20 morts. Le prédicateur n'avait pas anticipé ce développement. Bon, mes condoléances.
Les voies du Seigneur sont impénétrables.
Oui.
Oui, voilà, il faut de temps en temps faire des offrandes à l'Éternel.
À l'Éternel. Donc,
ces offrandes ont bien été reçues.
Alors, messieurs, avant de commencer l'émission, je vais citer les donateurs de cette semaine qui se sont manifestés. Alors, je précise que nous avons lancé un appel aux dons. Enfin, les dons sont, on appelle toujours plus ou moins à nous soutenir. Mais on a un projet à l'étude qui serait bien d'amener à son terme, qui est celui d'avoir une section commentaire digne de ce nom qui permette aux gens de commenter. Et on a sollicité donc ceux qui voulaient nous aider financièrement à ce sujet. On en a reçu, c'est très bien. Donc on continue à appeler nos donateurs à nous soutenir pour que cela soit possible. On estime à peu près 2500, voilà, entre 2200 euros, 2300 euros, quelque chose comme ça, mais 2500 dollars, voilà. Okay. Ça, c'est, ça serait bien de le faire, simplement, c'est les coûts techniques et serveurs. Hein, parce que ça, les gens verront quand ça sera mis en place, ils comprendront pourquoi. Alors, premier donateur, c'est Jean qui est un fidèle soutien. Bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer 35 euros au titre du mois de février. Merci beaucoup, Jean. On a un autre donateur, j'ai pas son nom, mais c'est Bonsoir Gandalf, un don de 3,4 monero a été fait. Très bonne idée de remettre en ligne une section commentaire. Bon courage et encore merci pour tout et à toute l'équipe. J'ai pas le nom, il se reconnaîtra, je pense, rien qu'au volume, mais vraiment, ça nous touche. Troisième don, 0,5 monero. Salut à toute l'équipe, un plaisir de continuer à vous lire et à vous écouter. Un démocrate participatif. Je crois que ça c'était Mélas Autocrator qui nous envoyait ce don là. Et le don précédent, maintenant ça me revient, c'était Kermitrou. Kermitrou qui nous a envoyé ce don, qu'il me pardonne pour mon oubli. Alors maintenant que j'ai procédé à ces rappels, commençons l'émission, si vous le voulez bien, avec une première rubrique, vous savez, c'est questions-réponses. Parfois, nos auditeurs ont une question, ou parfois ils ont une réponse, une précision à apporter suite à une discussion que nous avons eue dans l'émission. Alors, là, pour le coup, c'est du pointu. Derek avait sollicité, je crois, une expertise scientifique sur les causes de l'agressivité des Maghrébins et des Noirs, et nous avons eu une réponse. Alors, je vous la livre. Bonjour, je suis un scientifique postdoc du CNRS. Je vous avais déjà contacté lors d'un courrier des lecteurs au sujet du CNRS. Oui, je me rappelle. Lors de la dernière émission saison 5, épisode 4, Derek demandait l'expertise d'un scientifique au sujet de l'agressivité débilité des Maghrébins. À cet effet, je réponds présent en vous fournissant des données scientifiques. Premièrement, rappel historique. Les phénomènes de violence venant des populations maghrébines avaient déjà été longuement étudiés et décrits par le docteur Antoine Porot. Ah, Porowicz, c'est pour toi. Antoine Porot, qui est né en 1876 et qui est mort en 1965. C'est le fondateur de la théorie du primitivisme. Dans son premier ouvrage sur la question « Psychiatrie musulmane », qui date de 1918, celui-ci décrivait déjà la faiblesse intellectuelle de ses sous-hommes. Là, c'est Antoine Porot qui s'exprime. Hein. « Il faut faire la part de la débilité mentale assez répandue dans ces masses ignorantes qui ne trouvent dans la vie de leur bled aucune sollicitation à l'éveil intellectuel. » Plus intéressant encore, en 1932, le docteur A. Porot, donc Antoine Porot, écrivait dans un article, je cite encore, la question de l'impulsivité criminelle chez les indigènes de l'Afrique du Nord n'est plus seulement à l'heure actuelle un problème médico-légal algérien. Le nombre des indigènes qui traversent la mer pour aller travailler dans la métropole ou à l'étranger a crû sans cesse jusqu'à ces derniers temps, et la chronique des tribunaux relate chaque jour le crime de ces sidis, nouveaux venus dans la criminalité française, mais qui s'y sont vite taillés une large part. Donc là, on est en 1932. On est en 1932. À ceci, il ajoutait. L'indigène joue de la matraque, du couteau ou des armes à feu avec une facilité, une promptitude et une sauvagerie qui entraînent le plus souvent la mort. Plus modestement, nous voudrions ici rechercher les raisons d'un phénomène vraiment particulier à cette race, la fréquence de l'impulsivité criminelle. Alors notre auditeur reprend. Pour finir ce rappel historique et faire le lien avec le cas de la lesbienne Mila, je tenais à signaler qu'à l'époque déjà, ces phénomènes de vengeance, de revanche, étaient déjà décrits par Antoine Porot. Là, il cite encore le professeur Porot. « Quand il a subi un dommage matériel ou moral, s'il n'a pas justice immédiate, il cultivera et nourrira sa rancune. Il est incapable de rester des années au même potentiel... » Non, il est capable, autonome. Il est capable de rester des années au même potentiel vindicatif et, à l'heure venue, d'assouvir sa vengeance avec la même violence que dans le réflexe immédiat. Deuxième point dans le courrier de notre auditeur, consanguinité. Aujourd'hui, des études beaucoup plus poussées sur ces populations ont montré que le taux de consanguinité dans ces pays est très important, jusqu'à 50% au Pakistan. Dans les articles que je vous ai fournis, vous pouvez retrouver toutes les données qui montrent l'incroyable taux de consanguinité chez les Arabes, mais aussi les liens entre consanguinité et maladie mentale ou débilité mentale. Donc il donne effectivement dans son courrier, moi je ne peux pas les citer là, mais il donne toutes les sources hein, avec les liens, les documentations. Si vous regardez la carte du taux de mariage consanguin par pays, vous pouvez voir que l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont un taux de mariage consanguin de plus de 50%, donc là il parle des mariages, 30% pour l'Algérie. Avec un tel taux de consanguinité, chez les Pakistanais, on comprend beaucoup mieux l'extrême violence de ces sous-hommes en Angleterre. Troisième point, juifs et nègres complotent pour tuer les travaux du docteur Antoine Porot. Dans les années 1950, les travaux du docteur Antoine Porot ont été fortement attaqués par le sale nègre Frantz Fanon. Pour Frantz Fanon, ce n'est pas la race qui est responsable de la violence, mais c'est bien le racisme et la colonisation. Lire peau noire, masque blanc. Les virulentes attaques des juifs et de Fanon feront tomber les travaux du docteur Porot dans l'oubli car jugés racistes. Fort heureusement. Après de très longues recherches, j'ai réussi à retrouver une partie des travaux que je vous partage. Il nous les a donnés, donc on les mettra sur le site. Donc je l'annonce déjà à l'avance. Pour finir, je pense qu'il est bon de faire un rappel de qui est Frantz Fanon. Donc là, il nous parle de Frantz Fanon et des Juifs. Frantz Fanon est un Martiniquais qui, pendant la guerre, part combattre avec la France libre contre nos amis italiens. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il obtient une bourse pour faire ses études de médecine à Lyon. En 1951, il propose sa thèse de médecine qui est jugée exécrable et irrecevable. Cette thèse est aujourd'hui un livre qui s'appelle « Peau noire, masque blanc », livre qui dénonce le racisme, la colonisation et l'esclavage. Quelques années plus tard, une seconde thèse sera rédigée et acceptée par l'université. Celle-ci lui permettra d'exercer la médecine au sein de l'hôpital Saint-Alban, où il fera la rencontre de son maître à penser, le dénommé François Tosquel, un catalan marxiste qui a fui Franco. Après quelques années, Frantz Fanon est pistonné en tant que médecin-chef dans un hôpital psychiatrique en Algérie. Dès lors, il rejoindra le FLN pendant la guerre d'Algérie. Le nègre est ingrat, précise notre auditeur. En 1961, atteint d'une leucémie et se sachant condamné, Fanon convoque Claude Lanzmann et Marcel Péju, un marxiste, probablement juif, pour organiser une rencontre avec Sartre. Fanon meurt à 36 ans, laissant derrière lui son infâme chiard mulâtre Mireille Mendès-France, qu'il a produit avec une panne. Oui, ça nous rappelle des choses, oui. Mireille se marie donc avec le mal nommé Pierre Mendès-France, issu d'une famille juive d'esclavagistes, tout à fait, de Bordeaux. Mireille et Pierre eurent un fils, Michel Mendès-France, le père de notre bien-aimé Tristan.
Bonjour Tristan, d'ailleurs, j'en profite.
Oh là 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 là, quelle merveilleuse histoire.
Dans les années 1990, la mémoire de Frantz Fanon est attaquée par le docteur Humbert Madeleine, tutrice de Fanon pendant l'internat, qui dénonce le mauvais comportement et les violences de Fanon sur le personnel de l'hôpital de Dole lors de son stage d'internat, stage où l'on prépare sa thèse de médecine. Il lui était aussi reproché de ne pas travailler, il ne prenait pas les observations sur les patients. Lors de cette polémique, la juive Alice Cherki, installée en France, prend la défense de Fanon. Alice Cherki est une juive originaire d'Algérie dont le père est négociant céréalier. Ah, un agioteur en céréales, comme les Dreyfus d'ailleurs. Lors de la guerre d'Algérie, elle rejoint le FLN. Quant à Mireille Mendès-France, toujours en vie, elle travaille à Mediapart où elle rédige des articles sur les droits de l'homme. Récemment, elle demandait la libération de Tariq Ramadan. Voilà, nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons donner la documentation sera mise en ligne, hein, sur il y a plusieurs ouvrages. Voici ce qui nous livre, vous le verrez sur le site. C'est premièrement Psychiatrie musulmane, 1918, hein, du docteur Porot. L'impulsivité criminelle chez l'indigène algérien, 1932, du même auteur, toujours du même auteur. Étude de la psychiatrie chez les Noirs, 1939. Ce dernier livre intéressera sûrement des riches spécialistes du nègre. Voilà, il nous donne les liens, et voilà. Alors, il nous a fait un don aussi. Merci beaucoup pour votre soutien, cher auditeur. Ça nous va droit au cœur. Et merci surtout pour ce courrier très précis, très pointu. Merci. Alors, mes amis, et Derek, je commencerai par toi, puisque c'est une réponse directe à ta sollicitation. Je suis sûr que tu liras avec avidité Étude de la psychiatrie chez les Noirs,
oui,
du professeur Porot, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu veux répondre à notre auditeur ou faire comme remarque?
Non, mais déjà, c'est vrai que le premier ouvrage qui est cité, Psychiatrie musulmane, m'a particulièrement...
Ouais.
On sent que ce professeur-là était un érudit, hein, il savait de quoi... psychiatrie musulmane. C'est des mots qui vont très bien ensemble. Donc, oui.
1918, hein.
Oui. Avant, on pouvait remarquer des choses. Hein. On avait le droit. C'était possible de dire, ah oui, c'est comme ça. Maintenant, tu n'as plus le droit de remarquer des choses. L'histoire du nègre Fanon associé à la famille Mendès est aussi particulièrement croustillante. Hein. Je
Oui.
connaissais ce nègre de nom, puisque je crois que c'est. Il y a une citation de lui que les antiracistes nègres aiment bien sortir, c'est-à-dire que dès que. En gros, enfin, il faudrait que je la retrouve, mais c'est une citation qui dit que quand quelqu'un est antisémite, en fait, il est anti-noir. Oui, ce qui n'est
Oui,
pas
oui, oui,
entièrement
oui, oui.
faux. C'est de lui, hein, donc ça n'est pas étonnant que ce. Donc ce type-là était dans les
Ouais, bonne grâce,
bonnes
oui. De...
valises des Juifs. Donc
Oui.
il s'est marié avec une blanche qui est allée en seconde noce déféquer un second monstre. Hein, du coup, après le monstre, une créatura négroïde, est allée déféquer un youtre. Donc un youtre qui est l'ancêtre de Tristan, hein, Tristan Mendès. Quelle merveilleuse histoire, hein, c'est merveilleux.
Qui d'autre sur ce courrier?
C'est incroyable, ces gens-là ont une haine du blanc, vraiment. Parce que finalement, leur réponse aux observations cliniques du docteur Porot, qui sont aujourd'hui corroborées par à peu près n'importe qui, lit l'actualité. Hein. Il suffit d'ouvrir son journal. Leur réponse, c'est quoi? Oh oui, non, mais c'est le traumatisme de la colonisation qui les a rendus méchants. Mais vraiment, ces gens-là, ah, je suis vraiment à chaque fois sur le cul, en fait. Oui, c'est encore la faute des Blancs, en fait.
Le truc, c'est qu'il en a même fait une thèse. Hein. C'est pas juste, il n'a pas fait un article, il a fait une thèse. Je sais pas si vous imaginez. Bon, elle était
Ouais, enfin,
merdique,
oui,
mais oui.
il a dit blanc méchant,
C'est ça,
il a
sur
répété
800 pages, ouais,
ça,
voilà.
ouais, sur 800 pages.
C'est magnifique comme thèse, c'est-à-dire oui, ils sont cons et violents, mais c'est la faute des blancs. Ben, ouais, d'accord, mais bon,
Oui.
voilà quoi.
Pour que le nègre arrête d'être con, il faut arrêter d'être raciste et puis faire oui, et procéder au métissage. Alors c'est bizarre, oui, il faut se métisser. Le nègre, pour qu'il soit moins con, il faut qu'il se métisse. C'est quand même étrange. Hein. Ouais, c'est bizarre, je sais
Il y
pas.
a des non-dits, oui.
C'est étrange comme thèse parce que niveau antiracisme, on a pas mal bossé là ces 40 dernières années, niveau métissage aussi. Et aux dernières nouvelles, ils en sont rendus à piller les bus et à piller les morts quand il y a des accidents. Donc visiblement, ça ne marche pas terrible.
Oui, ou plus récemment, si vous avez lu un peu l'actualité, ils éventrent leur ex blanche, comme dans les Yvelines, là, où on vient d'avoir un épisode de... Non,
Ah
vous avez pas vu ça?
oui,
Vous avez pas vu ça?
si, ben,
Non,
de
mais
loin,
vous avez vu dans les
un
extraits que
coach en séduction.
c'est un coach en séduction. Dans les extraits de ce que nous livre l'auditeur, il dit... comment dire qu'il y a vraiment cette haine. Enfin ça, il parle plutôt des Algériens, mais c'est vrai chez les Noirs aussi. Il y a cette violence, voilà, et une sauvagerie spectaculaire, quoi. Hein, et avec dans le but de tuer. Il souligne aussi, c'est pas juste de blesser, c'est vraiment d'assassiner, quoi. Et là, bah, cette blanche-là, donc ça se passe dans les Yvelines. C'était cette semaine. Bon, bah, il y avait une certaine Mélanie qui, pendant 4 ans, était avec donc un nègre de banlieue. Et puis,
Mélanine, donc.
ouais, non, ouais. Et puis elle s'est mise à la colle avec un autre gars, et le nègre est arrivé à leur domicile pour tuer tout le monde, pour assassiner tout le monde. Il a essayé de tuer tous ceux qui étaient là. Mais tout spécial. Alors, c'est pour vous donner un exemple, simplement pour illustrer concrètement ce.
Juste un petit aparté, croix de fer pour le nègre, hein, voilà.
Oui. Mais comment dire, à un moment donné, il y a la, je sais pas, il y a une fille qui est là, il y a une femme dans la maison qui en fait est, je crois, c'est la sœur du nouveau petit copain, enfin je ne sais plus. Bon, lui, il la poignarde et il la menotte. Ensuite, il monte. Non mais. Ensuite, il monte à l'étage Et il tombe sur son ex qui est au plumard avec son nouveau gars. Et là, il commence à essayer de les assassiner, il les plante et tout. La nana, elle essaye de s'enfuir, elle y parvient, il la rattrape et il l'éventre.
Hmm.
Donc, pour dire que effectivement, ça illustre ce que disait prophétiquement hein, le professeur Porot, qui disait déjà, imaginez dans les années 30 que l'immigration alimentait la colonne des faits divers. Vous imaginez 1932. Bon, aujourd'hui, on n'ose même plus en parler. C'est devenu une évidence, quoi. Voilà.
Mais bon, ça, ce sont des observations qui sont quand même datées. Je sais que bon, il y a des études contemporaines qui vont dans ce sens-là. Enfin, j'en avais parlé, je crois, la dernière fois. J'ai pas les relations. Je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent et qui les ont. Ça serait bien qu'il y ait un petit. Si c'est la chaîne la Sunrise, je crois. Je crois que c'est Sunrise.
Mmh.
Si c'est pas ça, ils me pardonneront. Qui avait fait une petite vidéo là-dessus. La relation entre psychopathie et Bakui. Donc il doit y avoir quelques articles derrière qui. J'en ai lu un petit peu à droite à gauche. Je suis désolé, j'ai pas la référence, mais il y a des études récentes qui bah, quand on les combine avec le QI des nègres, la carte du QI des nègres, les arabes, etc., qui montre une relation claire entre la psychopathie et la race et ces races de boue.
Oui, consanguinité, bacui, impulsivité, violence, débilité mentale, maladies psychiatriques diverses, notamment la schizophrénie, très connue. Voilà, on a toute une série de. Ça doit être, en fait, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, ça doit être le terrorisme absolu, mais. Dans les hôpitaux psychiatriques français, on doit avoir des spécimens.
Oui, oui. Alors c'est oui, j'avais
extraordinaire.
J'avais des personnels hospitaliers qui m'avaient indiqué ça.
Mm-hmm.
C'est l'Algérie. Voilà, c'est très simple. C'est la ville. Il y a beaucoup d'Algériens, mais quand même, c'est sur représenté. Ces gens-là sont fous. Enfin, ces animaux-là sont particulièrement fous, quoi.
Mm.
Voilà, j'en profite, hein, si vous avez des infirmiers en hôpital psychiatrique là, qui nous écoutent et qui veulent livrer des témoignages sur des fous algériens, nous sommes preneurs.
Ah oui, ouais, oui, je suis...
Les statistiques.
Ah oui, mais même, je suis très friand si on a des auditeurs qui travaillent dans le monde psychiatrique ou de la psychologie et qui ont affaire à ce type de clientèle, je suis preneur hein, d'exemple. Oui. Hein, oui. Ah oui, hein. Ah oui, oui. Hein.
N'oubliez pas les Marocains, les Tunisiens, bref, toute la smala.
Non, mais oui, je crois que c'est large.
Tout à fait, mais je crois que les Algériens se distinguent particulièrement. Hein.
Oui, c'est particulier l'Algérien, c'est quand même une race à part. Hein.
Mm. Ouais. Alors bon, la demande est lancée. En tout cas, merci à notre auditeur pour cette réponse qui sera accompagnée. Donc, on va communiquer, donc, comme je l'ai dit, les documents en question au lecteur.
Si je puis me permettre, Gandalf,
oui, vas-y.
Je remercie énormément cet auditeur pour le travail qu'il a fourni. Parce que, et je parle d'expérience, il faut bien se rendre compte qu'une quantité absolument phénoménale d'informations qui se trouve autant dans des organismes internationaux, en principe neutres, que dans des bibliothèques spécialisées, ont une fâcheuse tendance à disparaître. Je vais même aller plus loin. Quand tu interroges un organisme international, que tu fais une recherche spécifique, on a tendance à te répondre, plutôt que de te fournir les informations nécessaires qui sont en archive, on a tendance à te répondre « Non, non, mais en fait, le rabbin machin chose qui se trouve à New York est spécialiste en la question, vous avez nettement intérêt à le contacter directement. »
J'ai jamais expérimenté ça, mais... Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Non, mais bon, là on pourrait.
C'est hallucinant.
On pourrait rentrer sur les sciences humaines, mais il y a une destruction totale de la science médicale, parce qu'on peut pas. Enfin, je crois que là récemment, puisqu'on en avait parlé, je crois qu'il y a un livre qui est sorti par un pédopsychiatre. On en a parlé la semaine dernière. C'était MacDuff qui en faisait état et qui décrivait à peu près, enfin assez cliniquement la situation et qui n'hésitait pas à faire le lien avec l'origine ethnique des intéressés. Donc il y a quand même des choses qui se disent, mais bon, il y a une telle tyrannie dans toutes ces institutions gouvernementales et étatiques qu'il est pratiquement impossible de pouvoir parler de ces sujets-là, c'est-à-dire d'établir le lien entre psychiatrie et race. Voilà, ça c'est très clair.
De toute manière, bon, ces études-là ne servent pas à grand-chose, comme certains rabbins essaient de nous le dire.
Oui, c'est vrai.
On en parlera un peu plus tard.
Alors, merci à notre auditeur pour son courrier. Alors, deuxième réponse, chers amis, toujours en lien avec l'émission. Chers démocrates participatifs, vous vous demandiez dans la dernière émission comment une ignoble saloperie qui semble tout droit sortie du bas du panier du 93 avait pu se retrouver douanier à... dans un aéroport, dans un Roissy Charles de Gaulle, effectivement. J'ai la réponse à votre question. Il y a de ça 4 à 5 ans, j'avais dû traverser la France en urgence pour 24 heures. Pas de ligne aérienne, hors de question que je donne de l'argent à la SNCF. Faible motivation de conduire 2 fois 12 heures sur 2 jours. Je me résigne à prendre un blablacar. Je tombe sur une paire de douaniers. Un blanc, racialement irréprochable, mais très probablement gauchiste, et une saloperie des îles. Il s'avère que ce charmant couple est instructeur aux écoles de douaniers, dont je ne me rappelle plus le nom, et se rend à ma destination pour y faire passer un concours. J'apprends au cours du long voyage que le recrutement, comme d'autres dans la fonction publique, est l'occasion pour l'État de cibler les zones à très faible taux d'emploi pour y réduire la misère. Ah, sauf que les douaniers, étant une profession un peu sensible, ces derniers refusent de recruter des bougnoules du 93 ou des nègres de métropole. Ces derniers risquant rapidement de profiter de l'occasion pour faire passer le shit à Momo. L'État cible donc nos colonies, mais nos colonies de deuxième choix. Point d'Algériens, de Guadeloupéens ici. Ça, c'est la top qualité. Et c'est dangereux, car ça deal. Donc on va taper dans la deuxième série de colonies, île Maurice, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Ils ont des concours taillés sur mesure pour eux et concentrent en général 75% des places disponibles, avec le nombre de candidats qu'on va définir humblement comme modérés. Inutile de dire que le tri n'est pas vraiment effectué. L'intégralité du voyage a été passée à écouter les anecdotes toutes plus hallucinantes les unes que les autres, les candidats qui ne savent pas écrire, drama en tout genre pour un regard, une façon de faire... Un candidat qui bouffe avec les mains à la cantine ou refuse de se laver les mains, etc. L'échange de balles dans la conversation suivait peu ou prou toujours le même schéma. L'homme blanc contait une anecdote, quelque chose qu'il a marqué ou qu'il trouvait hallucinant. Et la femelle marronasse expliquait calmement que oui, c'est normal, car... Inutile de dire qu'après le « car », le blanc et le racisme étaient au banc des accusés. Jamais la chiasse marron... au QI moyen, probablement inférieur à 80, qui compose les rangs. Je me suis ainsi vu expliquer que certains candidats, juste après avoir été reçus au concours, n'avaient jamais vu une vraie maison. Ils dormaient jusqu'alors par terre, dans des genres de huttes traditionnelles, n'avaient jamais été sur Internet, certains ne savaient même pas tenir un stylo, d'autres encore n'étaient même jamais montés dans une voiture. Ces gens, un an plus tard, allaient contrôler si le chargeur Apple du container E4125 était bien conforme à la norme. C'est eux. Hallucinant. Une des histoires m'a particulièrement marqué. Un groupe d'étudiants douaniers procède à une fouille surprise d'une autre classe à l'aide d'un chien antidrogue. Ce dernier est fou et marque deux étudiants. Ces derniers hurlent, se plaignent du manque de respect de la procédure, font un foin pas possible. Oui, mais c'est normal, car la fouille n'ira pas à son terme et aucune sanction ne sera prise. Il y a quand même des gens assez cons pour ramener de la putain de drogue dans sa poche en classe dans une école de douaniers à proximité d'un chien anti-drogue. Imaginez le quotient intellectuel. C'est fou. Voici donc, chers amis, d'où viennent nos douaniers, purs produits du système républicain. Soyons-en fiers. On prend un singe, on lui met un uniforme et cela fait un fonctionnaire. Qu'importe qu'il chie par les fenêtres, c'est la fonction qui fait l'homme. Sincère salutation à toute l'équipe. Et à mes amis de LTWC qui m'écoutent sûrement, William H. Je découvre le cursus typique du fonctionnaire français des douanes. Là, je suis
Ben avant, la République essayait d'intégrer les régions pour les franciser, les Corses et les Bretons. Maintenant, c'est les espèces de confettis d'un petit peu partout. Donc, tu dois avoir de l'espèce de Tahitien de 120 kilos, du Calédonien. Alors, l'île Maurice, je crois pas que ce soit français pour le coup.
Non, mais il y a un caillou juste à côté, les Maurice, non?
Ouais, c'est
La
la Réunion.
Réunion, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est la Réunion, des nègres
Ah, la
partout, feignants.
Réunion, les gars, si vous saviez, si
Ah
vous
ben, on va
saviez.
en parler, rassurez-vous, on va en parler.
Et donc, bon, ben voilà, ça nous donne ça, effectivement. Donc, tu prends des nègres, la République, plouf, fonctionnaire. Donc, c'est ça qui fait tourner l'État. Alors, bon. Je reste assez dubitatif, effectivement, comme notre auditeur, la capacité du nègre à dire si un chargeur de téléphone est à la bonne norme. Oui, c'est assez intéressant. Notez quand même, bon, c'est assez rigolo de prime abord, mais ce qui est moins rigolo, c'est que ces espèces de sauvages ont gagné un emploi à vie avec un avancement automatique. Et une retraite donc garantie. Ça, c'est quand même beaucoup moins rigolo, hein. Moi, ça me fait beaucoup moins rire quand je prends la chose du côté de mon porte-monnaie.
Oui, ça peut aussi moins te faire rire quand tu as le bonheur de te faire arrêter à la douane par ce type de client.
Oui, bah oui.
Ah, toujours avec, évidemment, comment dirais-je, l'empathie, le respect
Oula, oui.
vis-à-vis hein, des blancs. Hein,
C'est-à-dire qu'ils ont l'uniforme, c'est l'autorité. Hein.
voilà,
Donc, moi,
c'est-à-dire.
il y en a commandé là. Hein. Moi, il y en a commandé. Hein.
Ces gens sont tous des bocassas en comment
Oui,
dirais-je en,
ouais.
en état de gestation hein. Il faut comprendre ça.
Déjà à la base, ils sont pas toujours très sympathiques. Alors en plus, si tu leur donnes un képi.
Ouais, c'est-à-dire que tu prends des sauvages. Le sauvage, tu veux dire, bon, mais alors toi, t'es comme nous. Putain, ah bon? Ah ouais? Il comprend pas.
Puis une arme en plus, tu leur files une arme, attention. Hein.
Tu leur files
Ouais,
une
puis
arme.
il peut donner des ordres blancs si tu veux, donc.
Voilà. C'est-à-dire que non seulement t'es comme nous, mais on va te donner. Attention, tu es important. On va te donner une fonction. Il faut. Voilà, tu es quelqu'un de spécial. Et là, c'est toi qui décides. Oh putain, le type, il sait plus ce qui lui arrive, quoi. Effectivement, c'est beau qu'à ça. Je suis, voilà, empereur. Empereur, quand il voit des gens, il a affaire à. C'est même plus des sujets. Il faudrait des cafards. Peut-être quand il voit des Français qui viennent, il a affaire à des cafards. Qu'il a droit d'écraser à sa guise.
Le roi nègre.
Tout à
Le
fait,
roi
ouais.
nègre.
Donc voilà, bon, apparemment, on recrute donc dans les contrées les plus lointaines. Je pense que sa vocation a évolué, hein. Bon, dans le futur, on aura peut-être de nouvelles clientèles,
Oh, je
justement.
pense que ça va évoluer, mais ça évoluera vers le djihad. C'est-à-dire que
Oui,
bon,
bah, on est bien d'accord.
vu qu'il faut quand même calmer ces populations-là, parce
Oui.
qu'il y a des étudiantes de 16 ans qui veulent mettre les doigts dans le cul d'Allah, donc ces gens-là, bon, qu'on mettait de côté pour des raisons évidentes, déjà sont de moins de côté. Hein. On sait que Roissy est c'est truffé d'islamistes au niveau
Ah bah
des
c'est
califs.
même enfin c'est une terre
C'est
c'est une terre d'islam hein, c'est une terre d'islam.
Dar al-Islam, effectivement. Donc oui, dans l'administration française, l'islamisme est appelé à se développer à une vitesse grand V dans la prochaine décennie.
De Villiers, bon on est ici quand même assez critique, avait écrit un livre là-dessus, Les mosquées de Roissy, c'est un bouquin qui a 15 ans pratiquement donc
Oui.
c'est tout sauf récent et rien n'a changé.
S'il y en a plus quand même.
Oui, il y en a
Oui, bah, ça a
plus, il y en a
changé,
plus.
il y en a plus. Ouais.
J'ai déjà raconté l'anecdote, hein, mais j'avais même invité nos auditeurs à y prêter particulièrement attention. Mais je vous invite quand vous que ce soit Orly. De toute façon, maintenant, dans toutes les grandes villes françaises, je pense que c'est comme ça. Pour ce qui concerne les grands aéroports parisiens, d'Orly ou de Roissy-Charles de Gaulle, je vous invite. Vous savez, quand vous embarquez et que vous êtes à bord de l'avion, vous êtes à côté de votre hublot, vous savez pas quoi faire. Je vous invite à regarder très attentivement les gens qui mettent les valises dans l'avion. Vous remarquerez qu'ils ont un profil très caractéristique, une pilosité caractéristique aussi. Je suis certain que ça vous mettra en confiance pour votre vol. Je le sais. Voilà.
T'as que des bougnoules musulmans extrémistes.
Oh, ils sont gras, qu'ils n'en peuvent plus.
Oui, non, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, j'ai raconté cette anecdote, je crois que oui. Une fois, donc je traverse un des grands aéroports parisiens, je cherche mon chemin. Je tombe sur un jeune homme de type maghrébin, et comment dirais-je, avec un bel uniforme là, de l'aéroport, hein, pas un uniforme de l'État, hein, mais un uniforme de l'aéroport. Et je vais pour demander, solliciter évidemment l'intéressé pour qu'il m'aide à trouver mon chemin. Alors, le pauvre homme n'a rien pu faire pour moi, il ne parlait pas français.
Ah,
il y avait un beau truc, hein. Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, costard cravate et tout. Bonjour, monsieur. Je cherche... Et là, il est déjà... Je comprenais rien de ce qu'il disait. Et voilà, c'est des...
Non, mais tu n'es pas un bon français, il faut dire.
Oui, oui. Non, mais voilà, donc c'est-à-dire le recrutement des métèques à échelle industrielle dans le 93, c'est la règle, quoi. Hein. Alors là, on parle des douanes. Alors dans les douanes, comme l'explique notre auditeur, ils recrutent pas chez ces types-là parce que, bon, pas pour le moment, parce qu'ils se disent que voilà, c'est peut-être encore un petit peu trop sensible. On va aller ailleurs, en Polynésie et autres, enfin en Kanaky ou dans les îles. Mais ceci étant dit, tous ces gens-là, je veux dire, c'est une bien maigre consolation, permettez-moi de le dire, parce que au final, ces douaniers, même recrutés dans les îles, etc., sont en contact, pour des raisons de proximité géographique et professionnelle, avec la crasse de Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas ? Donc même si eux proviennent des îles, ils sont constamment en contact de personnel qui, eux, proviennent de l'Île-de-France, et voilà. Et donc, bon, bah, faut pas rêver, hein, ils se font très très vite entraîner dans le bain, hein, donc... Je crois pas que ce soit de nature à prévenir quoi que ce soit. Bon, on s'en fout. En tout cas, merci à notre auditeur de nous avoir expliqué donc le pourquoi du comment. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ?
Oui, moi je remercie notre auditeur de nous avoir ouvert les yeux sur l'emploi, l'utilisation de nos impôts. C'est très... ouais. c'est toujours bon de savoir où ça va. Payer...
payer des nègres, qui se droguent en gros, hein, c'est ça. Hein, les douaniers, c'est des nègres qui se droguent, c'est ce qu'il explique.
Après,
hein.
Qu'est-ce qui est pire entre payer des nègres qui se droguent ou payer des flics blancs qui vont se planquer comme des fouines au bord des routes pour vérifier si tu roules à 71 au lieu de 70 Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même une particularité de ce fonctionnariat. Et du fonctionnariat français en général, à être détestable. Hein. Les fonctionnaires, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal.
Ouais, mais et la retraite de nos services publics
Putain, ouais, la retraite des confettis des îles, quoi, putain.
Les types, ça me sidère, quoi. Les types vivent dans des huttes, carrément, quoi. On les importe et ils t'arrêtent sur... Après, tu vas les voir t'arrêter... sur le bord de la route ou à une frontière ou dans un aéroport, et effectivement les mecs sortent de taudis infects de l'autre bout du monde. Oui, tu m'étonnes qu'ils ont l'impression d'avoir gagné au loto, puisque dans les faits ils ont gagné au loto. Alors nous poursuivons avec notre première rubrique en tant que telle après cette session réponse de nos éditeurs. Courrier des lecteurs, c'est une émission qui sera très focalisée sur le courrier des lecteurs. On en a reçu beaucoup, des courriers intéressants. Donc voilà, cette émission sera un peu spéciale, on va dire. Je précise aussi que Magdam nous a rejoint. J'espère qu'il va bien. Je pense que oui.
Oui, j'étais coincé dans les bouchons.
Dans les bouchons. Allez, donc ça, c'est... alors nous allons, messieurs, nous allons chez Valls. Enfin, chez Valls. Sur les terres où vivait jadis Valls. Hein, il s'est enfui maintenant en Espagne. Il est devenu un féroce monarchiste. Oui, c'est tout à fait. Et maintenant, il est, comment dire, nous allons à Évry. Salut à toute l'équipe et à tous les forcenés participatifs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à vous féliciter. vous tous qui œuvrez à la survivance de nos idées, lorsque je constate l'effervescence de nos rangs toujours croissants, je me prends à espérer qu'un beau jour, peut-être, un soleil blanc puisse se lever sur le quatrième Reich. Notre Reich, dit-il. Si je vous écris aujourd'hui, cependant, c'est bien parce que parfois cette lueur peut sembler ténue au bout du tunnel de la négrerie simiesque qu'entend nous imposer la tribu des abat-jours. Pour poursuivre sur la lancée du lugubre constat de la négrification des quatre coins de la France, entamé aux épisodes précédents avec Nantes et Amiens, je vous propose du très lourd, du solide, la Mecque au macaque, la matrice, le prototype, j'ai nommé l'Essonne. Même les démocrates les moins avertis connaissent déjà l'ampleur du sinistre qui ravage l'Île-de-France. Si on entend fréquemment parler du 93, de la gare du Nord, on néglige, à mon sens, beaucoup trop ce sublime département, ses bois, ses villes nouvelles, et par-dessus tout sa richesse première, l'or noir, j'ai nommé le Cafre de Bambouli. Ah, les négros, Gandalf, les négros, quelle joie de les voir pulluler dans les lieux publics et free wifi, avec le dernier iPhone 10 en main, quand on sait qu'ils ont 500 balles de CAF par mois. Le sinistre est d'ampleur, j'estime à 10% la proportion de blancs. Pour la plupart des étudiants, c'est mon cas. Même les crouilles ont foutu le camp. Dès mon arrivée à Évry, il y a quelques mois, le ton est donné. Une ville nouvelle, absolument hideuse, en briques rouges, à l'odonymie évocatrice et laudative du bolchevisme juif. Bref, un rêve érotique de boomer 68ard. L'on prétend aujourd'hui que cette ville était censée accueillir des cadres et hautes CSP+, je n'y crois pas une seconde. J'argue qu'elle a toujours été pensée par nos maîtres bien-aimés comme ce qu'elle est devenue. Un gigantesque enclos à négro, prêt à se déverser quotidiennement sur Paris par le RER D, comme la mélasse puante qu'ils constituent, afin de perpétrer plus avant la pollution qu'ils opèrent par leur présence. Un réservoir à bamboula, en somme. Ultime affront au milieu de ce cloaque de drépanocytose et de maffées sur la place principale à côté de l'hôtel de ville se dresse une cathédrale. Ainsi les goïms se rassurent, la fronce éternelle, il est toujours là. De quoi faire bander ce gros phoque d'Asselineau. Il va sans dire que les catholiques, dans la droite ligne du lapeur de pédiluve gabonais Bergoglio, distribuent fréquemment boissons chaudes et nourritures aux indigènes sur le parvis de cette même cathédrale, hideuse comme le reste de la ville, évidemment. Il faut, après tout, que les négros reprennent des forces à nos frais pour pouvoir nous gâcher la vie avec plus d'entrain. La maladie mentale gangrène cette ville, fruit de l'hygiène déplorable, du métissage, de la consanguinité, fruit, en somme, je m'égare, de la négrerie. Je vois des créatures difformes, édentées, hurler contre le vent dans la rue. Il y a encore une vieille tarée hurlait sur la gare, oui, la gare, qu'elle la maudissait au nom de la tribu de Judas, sûrement une kémite qui reprochait à ce bâtiment une forme pas suffisamment pyramidal. C'est simple, il n'est pas un coin de cette ville qui inspire confiance. Y vivre relève du supplice. Jamais la moindre quiétude, jamais le moindre repos. Ô grande âme, je n'en doute pas de l'exhibitionniste Renaud Camus, on ne peut même pas parler de remplacement. La ville a été créée ex nihilo, il y a 50 ans, spécifiquement pour y parquer ses négros. Cette terre n'a jamais été foulée par le pied blanc. Une sorte d'île des sentinelles, ou plutôt des sentinègres. Ma grand-mère, lorsqu'elle l'a vue, avait presque les larmes aux yeux en me racontant qu'avant, ici, c'était la campagne. L'incompréhension traumatisée du goy blanc, naïf face à la cruauté et à la violence de l'impitoyable usurier hébraïque. Je suis sûr qu'elle regrette maintenant de ne pas en avoir dénoncé deux ou trois durant l'amitié franco-allemande. Faut le voir pour le comprendre. Je suis venu ici en vague racialiste, aux velléités dissidentes. Je repartirai avec un t-shirt... Alors là, je ne peux pas citer l'artiste en question, mais c'est quelqu'un qui... Oui, c'est un artiste, oui.
Un artiste, oui.
C'est un artiste plutôt de l'hémisphère sud. Plutôt de l'hémisphère sud.
Voilà.
Voilà.
L'artiste printanier.
C'est ça. Mû par une haine à nul autre pareil. Cette haine salutaire qui est le seul espoir de notre race et que seule l'exposition prolongée aux nègres saurait amener. Je suis poursuivi jusque dans les moindres requins de mon existence par ces chimpanzés et leur médiocrité crasse. En effet, Île-de-France oblige, j'ai été contraint de prendre une chambre de crouille dans une colocation avec, suspense, un négro et un tronc. Le premier est manifestement au RSA et vit en caleçon pour autant que je sache, en regardant à longueur de journée l'équivalent ivoirien des Feux de l'Amour à volume maximal. Le second est un bougnoule étudiant en info, à demi autiste avec une tête de cacahuète qui chante d'une voix suraiguë de la musique pour Nana dans sa chambre et passe sa journée à se préparer des couscous. Ils dégueulassent évidemment l'appart et ont bouché les vies avec leur cuisine de singe et leur manque total d'hygiène, suite à quoi ils ont exigé auprès de la boumeuse de l'agence que je paie également pour les réparations, sachant que je n'avais même pas encore emménagé lorsque la chose est arrivée. Résultat, l'ensemble de la cuisine et des installations fuit, je ne peux utiliser ni l'évier, ni le lave-linge, ni le lave-vaisselle, pour lesquels je paie pourtant. Et on exige maintenant de moi que je paie encore plus pour les réparer. Le vivre ensemble à la mode de l'Essonne, les amis. Bref, si j'estime qu'il y a parfois des exagérations quand on parle de négrification, même si un nègre, c'est déjà un nègre de trop, je suis d'accord, croyez-moi, tout ce que vous avez entendu sur l'Île-de-France est vrai, et bien plus encore. Si vous avez failli faire un AVC en voyant un kebab ouvrir dans votre ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, n'allez jamais, ou grand jamais, dans l'Essonne. Sauf si vous désirez accélérer votre processus de radicalisation. Mais bon, au moins, on n'y parle pas le boche. Participativement vôtre, et c'est le Narbo du 91 qui nous écrit. Beaucoup d'humour, très beau courrier, très bien écrit.
Oui, belle plume.
Je m'y voyais, hein, je vous le dis pour le pire d'ailleurs, mais bon, je m'y voyais.
Ouais.
Alors Évry, Évry, voilà, hein, Évry quoi. Hein.
Oui, le 91, c'est les premières, comment dire, oui, c'est le premier contact que j'ai eu avec Dieu, en fait. Hein,
ah.
Ouais, ouais, les Terres Nègres m'est apparu dans le 91.
Sous quelle forme?
Sous la forme de je crois que j'en avais déjà parlé, mais en étant dans un RER à étage. Eh bien, j'étais en bas, les mecs étaient en haut à sauter. Donc, Dieu, il y a eu une forme de transe qui s'est produite. L'Éternègre a frappé ces créatures qui se sont mis à faire.
Oui, ils sautaient sans explication. Il y avait pas de.
Oui, enfin, il y avait. Oui, enfin,
des nègres, oui, voilà.
Ils étaient animés par le divin. Hein. voilà. Donc ça et la gare de Grigny, la gare RER de Grigny, c'est une.
Déjà le nom de la ville Grigny, tu vois, Grigny, tu vois, ça sent le nègre.
Ah non, c'est Grigny, oui, mais gris, c'est, tu dis,
gris, gris.
Non, non, il y a pas, oui, c'est gris plutôt.
Hein. Gris, hein.
Quand tu es un blanc là-bas, bon, j'avais des connaissances blanches qui des fois étaient obligées de passer par la gare de Grigny. Si tu passes 10 fois là-bas avec ton téléphone portable, sur toi, tu peux être sûr que au moins une fois sur 10, tu n'as plus ton téléphone. Hein. C'est à chaque fois, si tu une roulette russe avec un barilé un petit peu plus gros, tu vois, t'as pas 6 coups, tu en as 10. Quoi. Bon, c'est Grigny. Mais c'est exclusivement nègre, hein, du nègre.
Hein, oui, il n'y a pas d'arabe, c'est ça que tu veux dire, c'est du nègre.
Non, puis même, c'est même les métis, c'est du nègre. Tu vois, c'est du gros cafre. C'est même pas du nègre de la brousse, hein, c'est du nègre du désert, tu vois, les espèces de maliens, le truc comme
ça.
Le nègre du Sahel, tu vois, c'est.
Ouais, qui tire un peu sur le violet.
Qui est noir, tu vois, qui a bien noirci, oui, c'est
ouais, nègre ouais.
Bleu.
Nègre bleu, pétrole. Violet, ouais, bleu pétrole, ouais, ouais.
Il y a des reflets, effectivement, la lumière, c'est assez dérangeant. Ça tire dans tous les sens, bon, il tire au mortier tout le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évry, il a parlé de la cathédrale d'Évry dans notre
ouais. Tu connais?
La cathédrale d'Évry. Oui, je connais. Oui, bon,
lieu du miracle et de l'incarnation, visiblement. Hein,
oui, de la résurrection. Hein. Ça s'appelle la cathédrale de la résurrection.
Allez la voir. Google, la cathédrale d'Évry, allez la voir. Elle est horrible, c'est abominable.
Alors, c'est une tour de Babel, en fait. Hein. C'est un cylindre tronqué dans la.
Je vois laquelle tu dis.
Cette espèce de. Bon, c'est du maçonnisme
pur
et dur, quoi. Avec une croix. C'est du maçonnisme avec une croix, c'est ce qu'on appelle l'église conciliaire, hein, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est bon. Je sais même. Bon, ça a eu fonctionné. Je ne sais pas si maintenant vu que ces terres-là sont de plus en plus imprégnées de piété mahométane, je ne sais pas si cette église est encore en service ou pour combien de temps en tout cas. Mais oui, c'est horrible, c'est un truc en béton, cylindrique, tronqué, donc une tour de Babel. On t'annonce que tu, voilà, tu mets les pieds, tu sais.
Oui, le projet, c'est le projet cosmopolite, multiracial, voilà. C'est...
Ouais, oui, bah, multiracial.
Bah oui, un peu moins du coup. Oui,
ouais, oui. C'était le projet au départ, si tu veux. Ça fait état de. Enfin, c'est déjà cette cathédrale est déjà de l'histoire ancienne en fait. Hein. Parce que, bon, déjà, c'est la population est musulmane et le projet de cosmopolitisme, enfin vivre ensemble, les partout interraciales, tout le monde se fait des bisous, etc. Ça marche quand il y a plusieurs races, mais bon, quand tu n'as que des nègres, bon, ben, tu as. Moi, je propose qu'on détruise ce truc-là et qu'on fasse une espèce de machin. Comme ils ont là au Mali, là,
ouais, un truc en bouse séchée là.
Oui, les mélanges de merde de chameau et de sable, hein, qui sont apparemment du patrimoine mondial de l'humanité.
Alors du coup, on peut dire en substance hein, que le projet de mondialisation et de société multiraciale, en fait, aujourd'hui, au rythme où vont les choses, devient un projet d'extrême droite par comparaison, en fait, parce que. Comment dire, le nouvel horizon, en fait, c'est le nègre, quoi.
C'est le nègre,
point barre, et il n'y a plus tellement de place, même un petit peu pour quelques blancs, ce n'est plus du tout au programme. Hein. C'est la ville de Valls, hein, on est d'accord. Hein,
c'est la ville de. Oui, bah c'est pour ça qu'il s'est barré à écouter du. Enfin, oui, à aller danser. Gypsy King,
ah ouais. Catalogne, déguisé en narcotrafiquant.
Oui, oh, putain, c'est merveilleux. Mais, oui, je dis bon, bah, ouais, bah, là les nègres, ça va. C'est le type, il voulait être président, hein. Il voulait être président de la République.
Et bon, il a épousé une milliardaire. Comment dirais-je, c'est quand même étonnant. Hein. T'es maire d'une ville pourrie de banlieue comme Évry. Tu me mets quelques white, quelques blancos. bravo pour l'image de la ville d'Évry.
Comment ça va?
Ça va bien?
Ouais. Une belle image. Une belle image de la ville d'Évry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos.
Te rappelle à la vidéo. Et tu finis dans le pieu d'une milliardaire quelque part en Espagne. Et tu deviens donc de républicain fanatique, pro-nègre, enfin, définitif. Tu te transformes en espèce de monarchie, d'apologète de la terreur blanche, hein, parce qu'il en est arrivé là, Valls, maintenant. Ouais. Hein. C'est l'apologète de la terreur blanche. Hein. Il veut soumettre la Catalogne à la terreur blanche pour solidifier définitivement la monarchie catholique dans cette région. Ce sont des personnages assez originaux, quand même. Hein.
Ah non, mais oui, c'est vrai que ça, le caval, c'était vraiment... particulier.
Et il vient donc de là.
Si,
donc
on, si, je, les... puis, vas-y, si vas-y. Je puis me permettre, notre ami Valls oublie une petite chose. C'est qu'à la différence de la France, l'Espagnol, à partir du moment où on lui chie dans les pompes, il commence à devenir extrêmement mauvais. Donc à un certain moment, il se pourrait que notre ami Valls, en prenant sa voiture le matin, en mettant la clé de contact, ait, comment dire, une réaction que l'on pourrait déterminer par lumière et chaleur.
Ben, je sais pas, parce que lui-même
oui,
est espagnol catalan.
Il leur fait rien de mal là-bas. Oui, enfin oui, il fait chier les Catalans, mais les Espagnols.
Non, pas du tout.
Il fait le boulot. Enfin, en fait, oui, il fait le boulot des Espagnols, quoi.
C'est ça. Ouais. Alors, Évry, revenons à Évry. Qui a envie de réagir là, à ce courrier hein? Essonne, on va dire. Essonne. Notre auditeur dit on ne parle pas assez de l'Essonne. On parle beaucoup trop de la Seine-Saint-Denis. On parle pas assez de l'Essonne.
On parle du 9-3. Le 9-3, c'est Roissy. Et puis l'Essonne, c'est le chiotte d'Orly, en fait.
Mais l'Essonne, c'est pas un département qui est géré par les Républicains, ça?
Je sais pas.
Ouais, je crois bien.
Je crois bien, parce que on avait parlé, vous savez, de la réfection là, d'un quartier où il y avait un cirque. Ils avaient fait un cirque pour les animaux d'une banlieue. Vous vous rappelez, il avait été cramé, le cirque, c'était il y a quelques mois.
Ouais.
Et à la faveur de ça, on avait découvert que,
Alors, la commune, le département, la région, enfin, tout le monde mettait du pognon là-dedans, et la réfection de ce quartier à Nègre avait coûté, je crois, la bagatelle de pratiquement un demi-milliard d'euros. 400 et quelques millions d'euros. Et ça, c'était juste un quartier, et si ma mémoire est exacte, c'était dans l'Essonne.
Mais les Dassault, d'ailleurs, les Républicains... Amis Dassault, amis...
Ouais, mais Corbeil-Essonne, oui.
Ouais, Corbeil-Essonne, effectivement.
Bloc.
Et donc, je confirme, oui, c'est effectivement le conseil général d'Essonne est présidé par un maire, enfin, oui, par une républicaine, donc LR.
Voilà.
La droite molle, quoi.
Ouais, c'est ça. Deux tiers des maires sont à droite. Enfin, à droite. Selon l'échiquier classique politique français.
La droite dure.
Bah, ça se ressent, là. Hein,
ça se ressent. Bien.
Ça se ressent. Qui veut ajouter quelque chose sur... Donc notre jeune auditeur est étudiant, hein, et il est en colocation avec un nègre et un bico. Et il doit nager là-dedans. Ouais, bonne chance. Hein.
Bah, c'est d'homme, c'est un coup à finir égorgé. Hein, c'est le type... Fiez-vous, chers auditeurs, au docteur Porot, hein, qui a été cité
oui.
plus tôt. Voilà. Là, en plus, cher ami, tu rechignes à payer...
Oui.
Des trucs bon, que tu n'as pas à payer, mais les nègres ont dit que tu dois payer.
En dépit de la colonisation.
Oui,
ils refusent
en plus,
de payer, en plus.
Oui, en plus, voilà, tu es blanc, donc tu es coupable. Tu refuses de payer. Bon, moi, je... Oui, je serais un petit peu prudent.
Oui.
En colocation entre un nègre et un bico, il faudrait voir au niveau fiscal s'il n'y a pas possibilité de défalquer les frais de déodorant.
Ça serait une piste à étudier.
Par contre, pour en revenir à l'Essonne, ça me paraît quand même très très divers comme département. Enfin, pas divers dans le sens de la diversité négresque, mais je crois qu'il y a une ville comme hier, qui est la ville de Dupont-Aignan, c'est quand même une ville bourgeoise où il fait quand même relativement bon vivre.
Magda marque un point, c'est-à-dire que dans tous ces départements, alors à part peut-être le Nostrois et encore, tu dois avoir deux trois confettis comme ça qui marchent,
mm-hmm.
mais oui, ces départements-là sont... Alors, si on veut faire une analogie, je pense que ça peut être comparé à la, comment dire, à la Palestine occupée par les Juifs. C'est la Cisjordanie avec les colons.
Ah oui, oui, d'accord.
C'est un petit peu pareil. Mmh. C'est une espèce d'apartheid où tu as des îlots de blancs, de villes, de quartiers, même de quartiers. Certaines villes ont des quartiers pourris et d'autres qui sont tout à fait bien. Et ça va, donc, que ce soit pareil, le 92, le 91, le 93, alors peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais oui, j'ai vu une ville d'un quartier à l'autre, t'as pas l'impression d'être au même endroit, quoi, même pas dans le même pays.
Mmh. Oui, tiens, Villani est un député de l'Essonne. Il y a, sur les 10 députés, il y en a 6 qui viennent de La République En Marche, donc quand même avoir... du macroniste et du petit bourgeois blanc.
Ouais, enfin, ouais,
après,
ouais.
Bon, c'est pas forcément ma cam non plus. J'ai aucune envie d'habiter dans ce département, même pour ça.
Bah, oui, c'est surtout que ces gens-là sont en voie de disparition. Moi, j'ai le cas d'une ville que je ne citerai pas, du 91, où, donc, bref, endroit pavillonnaire, hein, très propre. Finalement, l'écumoire métèque a débordé. C'est-à-dire que les types ont été obligés de se barrer, des blancs, hein, avec une maison bourgeoise. Ceux qui ont racheté, c'était des Pakistanais. Hein,
voilà. des vrais Pakistanais. Des Pakistanais.
Ouais, avec leur nez, tu vois. Un truc qui te crève l'œil, tu vois. Oui, des pack-pack.
Oh là, putain.
Oui,
voilà, et puis il ne faut pas oublier aussi un autre truc. C'est les logements sociaux. C'est-à-dire que vous avez une obligation, je crois, de 25% de logement social, et jusqu'à une date assez récente, les mairies de droite, en fait, payaient les amendes pour non-diversification raciale de leur commune, pour ne pas avoir de problème. Sauf que je crois, mais là il faudrait que je me reverse, il faut que je repotasse un peu le dossier, mais je crois qu'ils ont... Enfin, de toute façon, s'ils ne l'ont pas fait, ils veulent le faire et ça se fera de toute façon. C'est vraiment passer en mode coercition totale. Voilà, tu ne peux pas payer d'amende ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu te prends du logement social et avec la clientèle qui va avec. Quoi. Et la clientèle, j'ai pas besoin de vous la décrire, vous la connaissez. Donc même quand vous avez des communes cossues, etc., où par le jeu du prix de l'immobilier, en fait, il y a une ségrégation qui se met en place et qui permet de tenir à distance les métèques, par le jeu du logement social, vous pouvez quand même saloper racialement une commune.
Et il y en a beaucoup. Oui, c'est également ce qui force la jeunesse blanche à se mettre dans les griffes des boomers. Ce genre d'entourloupe immobilière. Parce qu'évidemment, que vont faire les jeunes blancs? Ils vont fuir ces zones pour se mettre dans la main des boomers, très généralement via la location. Et ce qui marche très très bien dans ces villes à relativement cossues de la couronne parisienne, c'est le découpage des pavillons en plusieurs logements. Parce qu'évidemment, on peut se faire une marge beaucoup plus intéressante. Quand tu vends un pavillon, 1000 euros, c'est forcément beaucoup moins rentable que de louer en fait 3 studios de merde à 500 euros le studio. C'est également ce qui se passe dans ces zones. Moi, très honnêtement, je n'ai aucune envie d'y aller. Ça m'intéresse pas du tout.
Oui, je préfère crever. c'est vrai que, bon, il y a des auditeurs qui veulent là, d'autres auditeurs.
Ouais, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, non, mais notre auditeur là, arrive à vivre avec un nègre, un bougnoul. Enfin, bon, moi, non, je pourrais pas. J'arriverai pas, c'est pas possible.
Ah bah je pense que c'est un exercice. Et là, tu en apprends beaucoup. Hein. Si tu es un petit peu matrixé en fin de lycée, là je pense que tu vas en apprendre beaucoup sur les races. Ah bah tu là, vas te rendre compte que finalement les clichés, là, c'est peut-être une réalité.
Ouais, hein. C'est le turbo. Notre auditeur, c'est ça, il a été turbo du niaisier, quoi.
C'est ça. Ouais.
Ça lui a fait de choc.
Il est arrivé avec quelques petites idées de droite et de machin, peut-être un peu racialiste, comme il dit.
Oui, il existe des différences raciales, comportementales, un petit peu, etc.
Et il ressort de là, à Hitler. Voilà, donc.
Oui.
Probablement même plutôt sur l'aile droite du NSDAP, à mon avis, d'ailleurs.
Oui. Exactement.
Oui, je pense. Qui d'autre sur ce témoignage d'un jeune auditeur qui survit à Évry, en colocation avec des métèques? Putain, le mec est courageux, quand même.
Ouais, juste l'anecdote, mais je fais partie de cette France qui vit encore dans un coin où c'est pas beaucoup négrifié, pas beaucoup de musulmans non plus, enfin d'arabes, quoi. Et je dois dire que cette réalité-là, on la voit pas à la télévision, ou très très peu. Hein. C'est vraiment complètement caché. Heureusement qu'il y a des pays, qu'il y a des témoignages pour nous relater un petit peu ce que c'est, parce que sinon, on ne saurait pas en fait que ça en est à ce point-là.
Bah oui, pas vécu à la première personne, c'est ça qui est bien avec les témoignages, c'est raconté à la première personne, et c'est ce que les gens vivent, et ils le disent avec leurs mots. Même quand tu vois des vidéos sur YouTube, bon, quand tu vois la centième vidéo de la gare du Nord, de Châtelet, ou d'une émeute de banlieue, bon bah c'est la centième, bon oui tu vois ça, mais en même temps tu te sens pas impliqué en réalité, puisque sauf ceux qui y sont, quoi, ceux qui y vivent, mais et là par contre c'est des récits, et ils peuvent pas témoigner à visage découvert, par définition, vous imaginez bien, notre auditeur, s'il disait ça face découvert sur...
Ouais, bah, c'est la mort sociale. Hein.
C'est la mort sociale, c'est l'exécution.
La mort sociale, ça c'est dans le cas le plus...
Oui, le plus simple. Après, il y a la mort raciale tout court, c'est-à-dire l'exécution par
les Oui, la mort tout court, hein, c'est, voilà, on te crève.
Bah, comme Mila, hein, comme la jeune lesbienne dont on a parlé la semaine dernière. Hein, c'est si jamais par malheur, t'es dans un milieu comme ça et que t'as blasphémé contre l'éther nègre, ou d'ailleurs Allah, hein, c'est presque interchangeable, hein, oui, ça se terminerait très mal. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce type de témoignage.
Donc
bon,
l'Essonne, chers amis, Boko Haram.
Tout spécialement Évry.
C'est l'avenir, oui, tout spécialement Évry. C'est l'épicentre. Il y a un potentiel pour avoir Boko Haram dans ces coins-là.
Alors, il souligne, les catholiques d'Évry sont très sensibles hein, au bien-être des nègres, hein, boissons chaudes, etc.
Quand tu pratiques ton culte dans la tour de Babel, et oui, tu es sensible aux nègres. Ouais, ça paraît logique.
Quelqu'un d'autre? D'accord, on va passer au courrier suivant. On remercie notre auditeur de nous avoir fait part de ce qu'il vit. Alors, deuxième courrier. Salut à toute l'équipe et à tous les potentiels démocrates qui entendent ceci. Je vous écris aujourd'hui afin de démonter un mythe persistant, ce que je ferai au travers du prisme de la pratique qui m'est chère, celle des sports de force. Le mythe dont je vous parle est le trop prégnant postulat de la supposée supériorité physique du négro sur le blanc fantasmé par les non-initiés comme certains nationaux et racistes. Jusque dans Orange, on voit qu'ils sortent encore à tout va des remarques, directes ou indirectes, sur la force et la musculature des gros nègres, par opposition au Toubab qui, lui, est toujours petit. Aujourd'hui, c'en est trop, et étant renseigné sur le sujet, je me dois de remettre les pendules à l'heure. Je m'entraîne en force depuis 3 ans, une activité saine et salutaire que je conseille d'ailleurs à tous nos jeunes raciosocialistes, afin non seulement de connaître l'effort, le dépassement de soi à rien, mais également et surtout d'incarner enfin une virilité physique blanche et se rappeler qu'elle est bien possible malgré la propagande émasculatrice que le juif entend nous faire gober. Je suis beaucoup les divers sports de force, force athlétique, épreuve d'homme fort, haltérophilie. Et laissez-moi vous dire quelque chose, tous ou presque tous les champions sont des blancs, pas mal de Chinois cependant dans l'haltérophilie. Les nègres et leur fameuse génétique supérieure sont sous-représentés. Dans les sports de force statique, la dominante est plus que nettement slave-scandinave. La plupart des titres en hommes forts et en force athlétique sont brigués par des Islandais, des Norvégiens, des Russes, des Polonais. Problématique quand on nous répète à longueur de journée que le petit Babtou ne peut pas rivaliser la chip. C'est-à-dire les Juifs. Nous vend toute la journée à la télé dans les clips de musique négroïde des négros dopés qui passent maintenant pour la norme. Car oui, pour les non-initiés, tous les cafres que vous voyez avec des physiques imposants sont sous testostérone et dianabol à l'année. Et la plupart du temps font ça évidemment comme les singes qu'ils sont. Totalement au hasard, sans pause ou relance entre les cycles de stéro. Certains ne savent même pas qu'ils sont sous anabo et pensent prendre de simples compléments alimentaires que leur donne leur grand frère, pour ceux qui, par hasard, douteraient encore de la connerie de cette engeance de boue. Et après, évidemment, ces sales bambous-là déclarent rieurs à qui veut l'entendre « Génétique du bled, nous qu'à manger à quoi, no way, et de soulever les poids, on se prend pas la tête !» Alors même qu'il est évident, pour le moindre pratiquant à demi-sérieux, que ces ignobles cafres mentent comme ils respirent. Je rappelle qu'une étude américaine datant d'une quinzaine d'années a révélé qu'au sein du pays, au moins 7 à 8% de ces singes utilisaient ou avaient utilisé des anabolisants, et il ne s'agit là que de ceux qui ont avoué. Ce chiffre grimpe évidemment bien plus haut dans les salles de sport que j'ai fréquentées. Je dirais environ 50% d'entre eux sont dopés, alors que ça reste de l'ordre de 10% pour les blancs, à vue de nez. Il y a des signes qui ne trompent pas. Épaules et trapèzes surdéveloppés, prise de muscles malgré un entraînement rare et peu éprouvant, souvent constitué de mouvements ridicules et inutiles. Ce fait n'est évidemment jamais questionné ou mis en lumière, évidemment, puisque ces pratiques de nègres vont dans le sens d'un découragement et d'une émasculation des jeunes hommes blancs fomentés, je n'en doute pas, dans les tréfonds de Yad Vashem. Le message est simple, la puissante bête noire incarne la virilité physique, le goy blanc doit le vénérer comme une idole primitive de fertilité et lui offrir sa femme. Ce poncif n'est même pas totalement absent en filigrane du discours tenu par certains racistes qui virilisent peut-être sans s'en rendre compte les gros noirs qui les fascinent tant. Soyons clairs, il ne faut pas haïr les nègres pour une prétendue supériorité physique qui en ferait un danger. Il faut les haïr parce qu'ils sont laids, cons et malodorants. Et faibles, plus faibles que nous, comme je m'efforce de le montrer.
Et mal foutus, j'ajouterais.
Hein, oui, aussi.
Les nègres et mal foutus... en général, il a le cœur qui pète quand il fait du sport comme ça.
Ouais.
on se rend compte que la machine est mal branlée, quoi.
Mais c'est arrivé du coup cette semaine, d'ailleurs, je crois, un compétiteur de musculation très connu, dont je connais pas le nom parce que je connais pas trop sa discipline. Un nègre qui a abusé de produits, et il est à moitié à l'hosto, il est à moitié mort, quoi. Alors que le mec, il a, je sais pas, il a la trentaine, quoi.
Ben voilà, voilà. La force noire.
Mange. Si le physique et la force de ces macaques peuvent impressionner deux ou trois putains nègres dans la rue, il est absolument ridicule quand on sait à quoi ils tournent en moyenne. Le schéma est toujours le même. Un jeune nègre arrive en salle, garde un physique de tige et des performances de gamine pendant un an, puis soudainement explose grâce à un nouveau programme, un exercice secret ou parce qu'il a commencé à manger 8 œufs par jour. On y croit. Je ne parle même pas des centaines de vidéos sur des bodybuilders africains qui suscitent l'admiration de la masse en s'entraînant avec les moyens du bord. Bambou, parpaing et fioles de testo à 70 centimes qui se trouvent à tous les coins de rue. Ah, mais mince, ça, on n'est pas censé le dire. Le plus drôle, c'est qu'ils croient eux-mêmes à ces conneries. Vous me direz, si les Blancs y croient, ce serait un comble que les négros à 65 de QI ne voient pas la supercherie juive. Ne croient pas à cette supercherie juive. De ce fait, ayant tout de même, à force d'effort, acquis un meilleur niveau que la plupart de ces abrutis dopés, j'ai souvent l'occasion de susciter l'incompréhension, voire la colère des nègres en salle. Ainsi, il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour, 4 fois en un an pour être exact, qu'un petit négro vienne essayer de soulever ma barre, l'air moqueur, sans échauffement, sur un mouvement qu'il n'avait manifestement jamais fait, en se disant que si le sale blanc l'avait fait, ce serait facile pour lui, avant de repartir l'air abasourdi en voyant qu'elle ne décollait pas d'un millimètre. C'est toujours un plaisir. J'ai également eu un cafre qui m'a demandé, sceptique, si les poids que j'utilisais étaient des vrais et a tenu à en prendre un. Les boucaques, et là il souligne, ne comprennent simplement pas que les blancs puissent être plus forts qu'eux. Ils comprennent pas, ils comprennent pas. Cela les met dans un état de jalousie absolument délectable et leur faire perdre le sommeil. Combien de négros j'ai remis en place en demandant un tourné avec eux quand ils faisaient un peu trop les malins afin de m'échauffer avec leur charge. Et combien m'ont lancé suite à ça des regards assassins qui ne parvenaient qu'à me faire marrer intérieurement. Tout ce que je dis ci-dessus s'applique aussi aux bougnoules, évidemment. La prétendue supériorité physique de ces races maudites est un énième écran de fumée juive. Non content d'être plus intelligent, les blancs sont également plus forts. Comble de l'ironie, c'est l'intelligence blanche, à l'origine de la découverte des produits dopants, qui permet de perpétuer ce mythe donc, du nègre ultra viril et musclé. Quoi. Aspirez, chers démocrates participatifs, à la puissance comme à l'harmonie du corps, afin de retrouver ce qui fait cruellement défaut à notre race et même trop souvent notre milieu, la virilité physique blanche. C'est Kael, et c'est Force Blanche qui nous écrit. J'ai appris des choses. Je m'en doutais, mais c'est bien expliqué, je veux dire. C'est... Qui a envie de réagir?
Ouais, je suis pas particulièrement étonné. Alors, encore une fois, je suis pas un expert de la discipline, de la musculation ou des épreuves de force. Je sais simplement parce qu'en tant qu'amateur, je regarde parfois, quand j'ai l'occasion, les fameuses épreuves de force auxquelles l'auditeur faisait référence. Et effectivement, il y a quasiment que des Scandinaves. Effectivement aussi pas mal de Slaves, mais les Scandinaves remportent quasiment tous les titres. En ce qui concerne l'activité de musculation, bon, effectivement, la génétique, c'est un rôle important, bien sûr. Et finalement, tout le reste, c'est tous les endroits. Donc la génétique, c'est la loterie, d'accord? Mais tout le reste, ça va être tous les endroits où finalement le nègre n'a aucune prise. C'est-à-dire, bon, faut être très sérieux, faut avoir de l'autodiscipline, faut respecter un peu le cycle naturel de ton corps humain, de la construction musculaire, avoir une diète stricte, bref. Surtout rien qu'au niveau de l'autodiscipline, je pense que déjà il y a 95% des nègres qui peuvent pas suivre le truc. Faut être vraiment malin aussi en fait dans ton entraînement. Et finalement, je suis pas étonné que la seule alternative que les nègres ont trouvée pour briser un peu les règles du jeu, c'est la petite picousse, quoi. Voilà.
Ouais, le dopage.
Je peux en parler parce que j'ai pratiqué la force athlétique pendant plusieurs années. Maintenant, je ne fais que m'entretenir, et j'ai énormément perdu, peut-être à part sur le coucher, parce que je m'entraîne chez moi. Mais j'ai jamais vu de bons powerlifters nègres ou bougnoules. Si, un. Un type assez sympa d'ailleurs, un maghrébin. Mais globalement, il y avait toujours des blancs, donc ça ne me surprend pas du tout ce qu'il dit. D'autant plus que la force athlétique, c'est un sport qui est quand même assez dangereux, où on peut se blesser assez facilement. Et où il faut faire gaffe, parce que si on y va comme un bourrin, la blessure est inéluctable. Et moi j'ai vu une fois ce que le lecteur décrit, à savoir la transformation assez fulgurante de ces types. Et malheureusement, alors ça ne touche pas que les nègres, mais je pense qu'ils sont effectivement beaucoup plus touchés que les blancs, parce qu'effectivement ils n'ont pas de QI. Il y a une explosion de la prise d'anabolisants comme le diabanol, surtout en prise orale, hein, parce que c'est très facilement accessible avec le darknet et compagnie. Et ça, c'est surréaliste. Hein. Une fois, j'ai vu un nègre faire avec une technique lamentable, faire des séries à 180 en squat. Je l'ai vu un an, il était limite en déambulateur, quoi. Il pouvait plus marcher droit, et il avait évidemment perdu tout ce qu'il avait gagné, parce que il ne comprenait pas que les anabos, oui, effectivement, ça te fait de toi une merde à long terme. Donc tant mieux pour eux, écoute, tant mieux pour ces nègres. Il y a quand même une différence fondamentale entre la musculation et la force athlétique. C'est que la force athlétique, la performance se fait sur les poids, et la musculation, la performance se fait sur l'apparence. Bon, globalement, la musculation, il y a beaucoup d'athlètes qui sont quand même des nègres, hein, faut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus secs. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont beaucoup plus secs, ils ont une facilité plus naturelle à ne pas avoir de gras, ce qui n'est pas le cas des powerlifters ou des strongmen scandinaves. Voilà, quand vous voyez le fameux La Montagne, hein, donc qui est un strongman islandais, celui qui joue le frère McGregor dans Game of Thrones, c'est un type qui est gras. Et effectivement, quand on est gras, quand on est entre guillemets naturellement gras, on a quand même un peu tendance à moins se blesser, parce que quand on est très 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 sec, pour la force, c'est pas forcément une bonne chose. Le gras protège, en fait. Après, ce qu'il dit sur le fait que les épaules et les trapèzes explosent, c'est totalement vrai, parce que la plupart des récepteurs des cellules androgènes, ce qui vont faire le muscle, se situe au niveau de la ceinture scapulaire. Donc ça explose naturellement. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Quand on donne à ces groupes, alors ce sont des études qui ont été faites généralement chez les soviétiques, quand on donne au même groupe des anabolisants, ils prennent plus de muscles que des gens qui ne prennent pas d'anabolisants tout en faisant de la musculation. Ça se développe naturellement, c'est un truc phénoménal, c'est de la magie noire. Non, mais vraiment, c'est de la magie noire. Et en plus de ça, c'est quand même des choses qui ont été faites par les soviétiques, et très souvent qui n'étaient pas destinées aux athlètes. Pour beaucoup de cas, ça a été destiné aux animaux. Donc, éviter quand même quelques blancs de tomber dans ces saloperies, c'est pour les nègres. L'auditeur a raison. Le diabanol, c'est pour les nègres. Et tous les anabous.
D'accord. Quelqu'un d'autre ? Sur ce, à la fois le sport en lui-même ou bien le mythe du nègre survivant, qui est effectivement l'archétype de la propagande. Hein, je veux dire, il faut quand même regarder tous les types d'affichage, enfin, tout est prétexte à montrer une espèce de surhomme noir. Hollywood a joué un rôle, on sait qui contrôle Hollywood. Hein.
Oui, mais il y a aussi ça par le rap. Regarde
le rap,
du rap, là, ouais, les charismes, machin, Booba, ils sont tous bodybuildés.
Ouais.
Mais, enfin, c'est enfin, les féministes qui sont très promptes à dénoncer la masculinité toxique et, on va dire, certains folklores de la virilité ferment leur gueule devant ça, mais ces types sont absolument grotesques.
Alors, Bagdad, je dirais même plus loin, il y a une féministe qui avait fait un bouquin récemment. Enfin, il y a quelques années, au moins 2 ans, je crois, qui, dans son bouquin, expliquait qu'elle était allée sucer Booba. Hein, voilà, c'est...
Ah, c'est Madame Schwartz.
Je sais pas.
Ango Schwartz.
Non, c'est pas elle. Non, ça,
ah, c'est pas elle.
C'est encore autre chose. Non, c'est une offre. Une nana, voilà, qui fait une étude sur
machin. Bah, t'as aussi Marianne Chapa, hein, qui écrit des bouquins porno dans lesquels elle raconte qu'elle fantasme sur des partouzes avec des maghrébins.
Une nana de gauche, probablement journaliste au Nouvel Obs, je crois, si ma mémoire est bonne, qui écrivait dans son bouquin qu'elle était allée tailler une pipe à Booba, hein, directement. Donc, qui était une espèce de nègre gonflé au stéroïde, hein, clairement.
Oui, oui, bien sûr.
Après, t'as quand même l'influence de la testostérone naturelle, hein, qui joue énormément. Enfin, il y a une part de génétique dans tout ça. Tu peux pas nier.
Par rapport au gras, tu as ça.
Ouais, encore. Bon, pour le gras, c'est une chose, mais bon, c'est vrai que les taux de testostérone font beaucoup. Et que de façon globale, alors encore une fois, on ne fait que comparer des courbes de Gauss, il y a plus de testostérone très certainement chez des maghrébins consanguins qui n'ont pas forcément été exposés aux perturbateurs endocriniens et on fait du sport assez jeune, hein. Enfin, c'est pas forcément du sport en tant que tel, on a eu de l'activité physique, disons.
Il fuit la police, quoi.
Oui, voilà, plutôt que chez des bobos métrosexuels qui n'ont pas fait d'activité physique et qui ont été nourris aux écrans. Ça, c'est une réalité. Chez les Asiatiques, il y a en moyenne moins de testostérone que chez chez les nègres. Oui, non, mais ça, après, c'est une réalité. Et bon, il y a quand même des types très réputés qui sont des Arabes et des nègres, hein. même dans la force athlétique, hein. C'est une réalité. D'ailleurs, je crois que le champion français de force athlétique, donc celui qui, enfin, dans la catégorie de poids la plus élevée, est un Arabe. Je crois que s'il s'appelle Belzekir ou Belkessir, je ne sais plus.
Une autre réaction ou on a fait le tour sur le sujet de la musculation et du mythe de la vérité. Bon, en tout cas, bon, une invitation en tout cas pour les jeunes blancs qui veulent peut-être choisir un sport qui conviendrait à un état de
moi si je devais faire si je devais donner un conseil à des gens qui pratiquent déjà la force athlétique ou qui comptent s'y mettre, c'est de ne pas faire que ça, de se mettre à d'autres sports qui feront travailler un peu peut-être plus la mobilité, l'équilibre, parce que c'était pas, enfin, moi qui l'ai pratiqué, ne faire que ça n'est pas forcément une très bonne chose, même si effectivement ça développe énormément, plus que la force, ce que ça développe, c'est surtout ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et
oui.
L'influx nerveux, c'est quelque chose de qui peut s'apprendre à se développer et qui sert dans beaucoup de choses, y compris dans des activités qui ne sont pas forcément sportives. Et ça, c'est un fait. Les gens qui ont beaucoup d'influx nerveux ont généralement une faculté plus grande à se concentrer.
De toute façon, je veux dire, les gens confondent la masse et, quand même d'expérience, je pense que les gens sont quand même globalement d'accord. C'est plutôt l'explosivité qui fait la différence pour moi que l'apparence de la masse. Quelqu'un qui n'a pas forcément un très gros gabarit, mais qui est très nerveux, peut massacrer une montagne sans aucune difficulté. Hein. Si le type est très nerveux, très explosif, il peut lui sauter dessus.
Disons que c'est l'un des facteurs. Mais la force, c'est multifactoriel. Il y a la technique. Effectivement, la technique, c'est surtout c'est de la discipline, hein. C'est répéter des mouvements des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois. Ce que font très bien les haltérophiles. Il y a ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et l'influx nerveux, c'est quelque chose qui demande énormément de récupération, parce que c'est épuisant de l'utiliser, et également la masse. Et la masse est est en partie un facteur de la force, mais ça ne fait pas tout.
On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 5. Nous continuons avec les courriers des lecteurs, on en a reçu beaucoup cette semaine, ça valait la peine de les faire connaître. Donc voici le troisième courrier. Bonjour à toute l'équipe et encore mille merci pour votre travail et votre émission dont je suis carrément addict. depuis les débuts. J'ai pu rattraper les émissions manquantes via Wolfencast. Dommage que cette plateforme fût strikée. Oui, effectivement. Il y a des demandes là justement pour avoir toutes les archives. On travaille là-dessus. On a un souci technique, ça, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Le problème aussi qu'on a, c'est que quand on mettait les émissions sur des plateformes comme Mega Upload, c'était censuré aussi. Ça a été un souci, ça. Alors, je vais vous faire part d'une histoire que j'ai fini de vivre il y a à peu près 30 minutes au moment où je vous écris ces lignes. Un collègue de boulot m'a invité chez lui pour boire un verre et éventuellement manger tranquillement, ce que j'accepte volontiers. Une fois arrivé chez lui, son épouse m'accueille en me présentant, par la même occasion, ses deux enfants. Mon collègue me dit d'attendre car il en manque un. « Eric, tu descends dire bonjour s'il te plaît ?» Et que vois-je descendre ? Je vous le mets dans le mille, un putain de négrillon. J'ai dû tirer la même gueule que la célèbre photographie de Joseph Goebbels lorsqu'il a appris que la photo qui était en train d'être prise de lui par un photographe était juif. Ah, vous connaissez, hein, en Suisse. Hein,
oui.
Cette photo est extraordinaire.
C'est un regard tout à fait...
Oui. Alors, il y a l'anecdote, hein, les témoignages sont formels là-dessus, donc on la voit, hein, Goebbels est assis et il regarde l'objectif avec tout d'un coup, hein, c'est très différent. Alors, il explique, au départ, il était très sympa, très avenant avec le photographe, et quand on lui a dit qu'il était juif, vous avez la réaction dans le regard de Goebbels, en fait. Hein. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc, je comprends la réaction de notre auditeur. Donc je me tourne alors vers mon collègue et lui chuchote « Tu fais dans l'élevage de nègres maintenant ?» Le couple m'explique alors qu'ils sont une famille d'accueil, travail à temps plein de sa femme, et que ce charmant malien de 7 ans a été placé pour une durée indéterminée dans cette famille, car sa guenon qui lui sert de mère n'a pas assez de fric pour s'en occuper. Traduction: une famille d'accueil sert avant tout à recycler les poubelles qui ne nous appartiennent pas. La femme de mon collègue me demande si je reste manger. Je lui ai répondu poliment d'un « non merci, je vais me contenter de boire l'apéro ». En effet, il est hors de question que je partage un repas avec ce sous-être. Sa seule vue m'a coupé l'appétit. Une demi-heure se passe quand sa femme dit à mon collègue « je vais donner le bain à Eric, tu resserres à boire à ton pote ?» Je profite de l'absence de sa femme pour cuisiner plus en détail mon collègue. Sans déconner, qu'est-ce que tu fous avec cette boutiermondiste? Tu dois sacrément l'aimer, ta femme, pour accepter de recevoir des orques du Mordor. En pleine nuit, il te bouffera le foie, un de ces quatre. Il me répond qu'il était lui-même dégoûté et m'avoua que ce mini dos argenté était, je cite, « con comme une bite ». Je lui rétorque qu'il était juste con comme un nègre. 10 minutes plus tard, mon collègue monte à l'étage pour voir si le futur physicien nucléaire avait fini son bain. Il se met à éclater de rire et m'appelle prestement. Je monte à mon tour l'escalier et observe alors un grand moment de chimpanzerie. Je vois mon futur chercheur en robotique à poil, en train d'agiter les bras de bas en haut comme s'il voulait s'envoler, et la tête baissée, en train de souffler sur son torse. Je me tourne vers mon collègue, hilar, et lui dis « Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, ton Mamadou ?» Il me répond « Ce con a oublié sa serviette pour s'essuyer, et je lui ai dit, pour plaisanter, qu'il n'a qu'à agiter les bras et se souffler dessus pour que ça sèche plus vite. » Sauf que le nègre l'a pris au pied de la lettre. On dit que l'homme descend du singe, et que le singe descend de l'arbre. Je ne peux que constater que ce spécimen simiesque a loupé quelques branches lors de sa descente. Pris de pitié pour son futur génie scientifique qui sera contraint au deal de dope, il lui tend une serviette pour qu'il puisse s'essuyer convenablement et se mette par la suite en pyjama. Nous redescendons et nous nous servons un autre verre en parlant bien entendu du spectacle que Fofana nous a ouvert. Je vois dans les yeux de mon collègue qu'il était dégoûté d'avoir accueilli ce nègre, que c'était son premier et clairement son dernier. Je lui réponds que de toute façon c'était mort pour lui car le verre est dans le fruit, sa génitrice a refourgué son chiard et qu'il l'aurait sur les bras pour une période indéterminée. Il remonte alors les escaliers pour voir si le bamboula s'est bien mis en pyjama et mis au lit, il m'appelle à nouveau depuis la salle de bain, j'arrive à mon tour et je constate une belle trace marron sur le carrelage.
Mamadou n'a rien trouvé de mieux que de chier par terre et de se torcher avec la serviette. Mon collègue et sa femme en colère vont voir le futur chercheur en biochimie cellulaire et lui demandent pourquoi il a posé un étron par terre et pourquoi il s'est torché le cul avec sa serviette de bain. Il a répondu d'un « je sais pas » caractéristique, d'un nègre qui s'en branle. Mon collègue se rapproche du ramasseur de coton en devenir et sent une odeur sur lui qui sublime l'odeur du nègre naturel. Il était recouvert de merde de la tête aux pieds. Son collègue lui demanda avec ton réfié « Attends, Eric, ne me dis pas que tu as chié par terre, tu t'es torché avec la serviette et tu as fini d'essuyer le reste sur le corps avec la même serviette ?» Traoré lui répond « Si, c'est ça, j'ai pas bien fait ?» Alors, donc, le nègre a chié, s'est torché avec et ensuite s'est séché avec la serviette.
Oui, c'est tout à fait normal.
En Afrique, c'est normal, hein.
C'est à ce moment-là que j'ai dit à mon collègue et à sa femme « Bon, j'en ai bien assez vu, merci de me conforter dans mon idée que le paludisme, le syncida et l'Ebola sont clairement des remèdes divins au virus nègre. » Donc, je remonte fissa dans ma bagnole et je me suis enfui à fond la caisse de cet enfer en écoutant pleine balle le podcast de votre émission « Le ventre fécond ». Je finis ce courrier par la blague suivante. Pourquoi pas ? Vous savez de quelle couleur c'est un nègre ? Réponse, transparent. Tout ce qu'on voit, c'est de la merde qui se jette dans amitié sincère et bras tendus bien haut. Jean Adolphe.
Et elle est pas mal, celle-là.
Ouh là là !
Non.
Alors, messieurs, les familles d'accueil, voilà, ça c'est... Un drain, hein ? Bah, un drain, un drain, oui, non, un drain. La France est un drain.
Ça me fait penser à la performance artistique de gauchiste qui se torchait le cul avec un drapeau français. Peut-être cette œuvre-là pourrait-elle à l'avenir être l'emblème de la République bamboulique. Je ne sais pas.
Une traînée de merde sur un...
Oui, c'est une traînée de merde sur un drapeau bleu-blanc-rouge, ça... C'est un projet...
J'aimerais bien avec un peu de
ça
banane.
Ça serait de l'art premier. Hein.
Il faudrait des bananes en plus.
Ouais. Oui, avec des bananes.
Ouais, avec des bananes.
Jacques Chirac aurait été ravi.
Ah oui, je pense. Alors messieurs, un peu plus sérieusement, je découvre pas les familles d'accueil. Bien sûr, on connaît tous le principe. On sait qu'il y a des enfants qui sont placés là-dedans. Au départ...
Des enfants.
Oui, alors non, mais je dis au départ, heureuse initiative, bien sûr, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont battus, qui sont recueillis par des familles. Alors, la qualité peut varier de ces familles, mais bon, par des gens qui veulent... qui veulent aussi... qui sentent qu'ils ont envie d'accueillir des gamins. Sauf qu'entre-temps, hein, c'est 40 ou 50 dernières années, la France a été télescopée par un météore qu'on appelle l'Afrique.
Voilà.
Et donc, ça devient ce que j'appelle donc le drain. C'est-à-dire que voilà, donc les Blancs récupèrent des nègres complètement stupides. Peut-être en plus, ce négrillon est... Enfin, visiblement, il est déficient mental, hein, même léger, mais il y a un truc, quoi. Hein, je veux dire, vous allez me dire, Eric, tu vas me dire...
C'est un nègre, c'est un nègre.
Par définition, c'est un nègre, il est déficient mental.
Alors, j'attire ton attention, cher Gandalf, sur le fait que ce nègre ne s'appelle pas... ne s'appelle pas Abdoulaye, il s'appelle Eric. Sa mère aurait pu s'appeler Corinne, peut-être. Hein,
Donc comme quoi, mettre des prénoms français ne résout pas le problème racial.
Ah, oui, contrairement à ce que peuvent supposer certains intellectuels juifs, le nègre qui s'appelle Eric ou Corinne, ça ne change pas vraiment grand-chose. Hein.
Si on l'avait nommé Sven, ça aurait été un beau Scandinave, c'est une évidence.
Ah oui.
Alors là, en tout cas, on est vraiment face à du dysgénisme d'État. Hein. Donc là, vraiment... Vous avez des familles, ça peut détruire une famille, ça peut détruire un couple, hein, ça. C'est-à-dire, regardez-lui, le collègue de notre auditeur. Donc, sa femme, c'est son job et tout, elle se porte volontaire, on leur fout un négrillon dans les pattes. Donc, le négrillon est, vous avez compris. Et le collègue en a gros sur la patate, parce que lui, il a envie d'éduquer ses gamins dans une atmosphère saine. Or, avoir un négrillon comme ça au contact d'enfants blancs dans la même cellule familiale, c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Au niveau cognitif, effectivement,
c'est catastrophique.
J'invite bon, notre auditeur va sûrement écouter l'émission et écouter nos réactions. Mais au niveau cognitif, avoir deux. Je crois qu'il y a deux gamins.
Il y a deux gamins blancs.
Il y a deux humains qui sont là et qui cohabitent avec un animal. Un ouais. animal qui fait du bruit. Et, enfin, c'est censé parler, ce truc-là. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il va y avoir une. Il va y avoir
un nivellement par le bas, quoi.
Une assimilation à l'envers, hein, c'est le principe de l'arrivée de ces nègres. Un mimétisme qui va se faire. Et oui, moi j'encourage notre auditeur à mettre en garde son collègue sur le fait que ces enfants risquent de devenir des cassos.
Hein, il faut mettre des enfants blancs en quarantaine, je pense, comme pour le virus, là. Il faut protéger les enfants du virus nègre. Vous remarquez d'ailleurs que, bon, je pense que les familles qui ont un enfant trisomique, c'est quand même une sacrée charge, d'accord ? Je les plains. Mais au moins, l'enfant trisomique, je pense qu'il est propre. Je suis pas certain, d'accord ? Le nègre
non,
risque...
Non, voilà. ça pisse partout, hein. Ça pisse partout.
Ah, bon, d'accord. Vous pensez que le nègre arrivait à faire pire que la trisomie. Mais bon, j'arrive pas à distinguer la différence entre la trisomie et la
nègre. Ah non, mais là, visiblement, c'est quand même pire, parce que le nègre, il chie carrément au milieu des salles, hein, je veux dire...
Oui, voilà. Non, le nègre est quand même pire que le trisomique.
Attendez, il a 7 ans, c'est-à-dire que dans 7 ans, il est déjà occupé à sauter des guenons à droite à gauche, hein, et à dealer du shit, hein, dealer du shit ou du crack. Oui, 14 ans, je suis optimiste, oui.
Oui, dans 4 ans, 11 ans.
Il fera des gosses qui va naturellement pas s'en occuper, et puis ça va répéter le cycle, du coup.
La République, cher ami. La République, ce sont les enfants de la République, les futurs... L'or bleu.
Oui, d'ailleurs, donc le petit là, Eric, a été placé parce que sa maman ne pouvait pas s'en occuper. L'auditeur ne mentionne pas le rôle du papa qui a dû se barrer, j'imagine.
Un nègre, ça se barre, hein, oui, voilà. Par définition. Hein. Oui, il y a des gens qui ne sont pas très au courant de ça. Les nègres baisent comme des lapins, bien sûr. Ils sautent sur tout ce qui bouge, hein, peu importe. Et ils se tirent. Il se tire, c'est bien entendu. On a eu l'occasion d'en parler longuement, hein, avec le rôle de l'État social, d'ailleurs, dans ce type de cas. Hein, quand on dit l'État social, en fait, c'est les contribuables français de race blanche qui travaillent, hein, qui épongent la merde. Voilà, qui épongent la merde. Et excusez-moi, mais là, pour le coup, c'est concret. Ils épongent la merde. Hein. Famille d'accueil, ils épongent la merde des nègres. Vous imaginez ?
Ça donne envie.
La fonction de cette famille... revient maintenant à éponger la merde des nègres. Et en plus, on sait que ça va rien donner. Bon, c'est pisser dans le désert, un truc comme ça. Donc ça va être de l'énergie mentale, ça va être de l'argent, ça va être avec possiblement des complications dans le couple, avec les autres enfants, etc. Et aller savoir tout ce qui peut arriver. Pour rien. C'est-à-dire que c'est même pas un investissement. C'est une perte nette. C'est pour ça que je parle de drain. C'est hallucinant. Donc, moi, je sais pas, je connais pas les détails de enfin, je connais pas le fonctionnement de ce type de famille d'accueil. Sur quels critères c'est fait Est-ce qu'une famille peut choisir de ne plus accueillir en changeant d'avis parce que finalement, voilà. Bon, je sais pas, mais la femme du couple porte une lourde responsabilité dans l'affaire. C'est elle qui place.
C'est elle qui empoisonne le puits. Hein.
Voilà.
Si elle a des désirs d'enfant, qu'elle en fasse, quoi.
Bah, elle en a fait. Elle en a fait deux.
Non, mais elle en a déjà deux.
Attends, mais elle est complètement.
Ouais, non, mais déjà, il y a un problème parce que si tu mets femme et responsabilité dans la même phrase, ça ne fonctionne pas.
Effectivement.
Bon, après, vous allez me dire, bah, c'est une famille d'accueil, donc c'est ça le truc. En fait, vous pouvez plus être une famille d'accueil. Si vous êtes une famille d'accueil, vous allez recevoir de la merde du tiers monde. C'est garanti. Il y a peut-être quelques petits blancs qui varient, mais vous êtes. Les chances sont beaucoup trop élevées de terminer avec ce type de clientèle.
Oui. Et imagine tous les petits négrillons que la République produit à tour de bras à Mayotte, dont on sait parfaitement qu'ils ne seront pas élevables par les mères naturelles. Tout ça va se retrouver dans les orphelinats. Ouais. En métropole, ça va être une horreur.
Alors, tu parles de Mayotte, mais enfin, tu sais, tu peux parler de toutes les négresses qu'on fait venir d'Afrique. Hein, c'est exactement le même tarif. Hein. Tout ça, tu les vois. Il y a plein de trucs. Allez sur YouTube, vous savez, tapez des trucs totalement lambda. mères isolées, des trucs comme ça. Vous allez avoir des reportages. Regardez les clientes. Regardez les clientes, c'est des négresses, vous voyez, de 16 ans, 17 ans. Voilà, elles en ont déjà deux sur les bras. Elles sont placées en foyer, assistantes sociales. C'est que ça.
Alors, je tempérerai un petit peu ton propos en te disant que...
Oui, non, j'ai pas dit qu'il y avait que des négresses. J'ai pas dit qu'il y avait que des négresses.
Le nombre de putains que tu peux voir s'afficher avec le chiard blanc ou pas...
De plus en plus bigarré, quand même. Hein.
Tu as des nanas enceintes, parfois, qui s'affichent sur les réseaux sociaux, style Instagram ou les machines de rencontres. Des nanas enceintes, hein, qui, oui... besoin d'un homme vrai.
Oula.
Chauffard, hein, le chauffard. Ça n'est pas l'apanage de la négritude, ce genre de truc.
Non, je suis d'accord.
Et c'est très, très, très souvent. Ce sont très, très, très souvent des blanches.
Cassos rime avec putain.
Ah, tu veux dire des blanches qui ont un gosse avec je ne sais qui cherchent un pigeon, c'est ça ce que tu veux dire?
Oui, oui, oui. Le gosse peut être blanc ou pas, mais oui, les nanas qui sont là en mode occupe-toi de mon gosse, viens payer, c'est très, très, très commun. Hein. Et puis bon, heureusement qu'il y a des chevaliers blancs pour prendre soin de ces princesses ariennes, hein, comme il se doit.
Quand on pense qu'on a perdu, de très bonnes habitudes. Parce que dans le passé, lorsqu'on voulait marier sa fille, il fallait l'accompagner d'une dot. Aujourd'hui, on l'accompagne d'un aigrillon, à l'occasion.
C'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est vertu de la démocratie.
Putain, non, l'horreur, quoi. Imagine. T'en retrouver avec ça dans ton foyer. Oh, putain, mais je ne sais pas comment certains peuvent accepter des trucs pareils. Faut vraiment avoir vendu toute sa dignité pour accepter un aigrillon dans son foyer.
Ah, putain, Mais attention, en même temps, le mec, il a pas été pris par surprise, parce que sa femme, faut pas rêver, elle est pas arrivée un jour, tiens, voilà, voici notre... Non, c'est une famille qui est volontaire, les mecs, ils ont été consultés, etc., on leur a parlé du gosse en amont et tout, voilà, le mec, il a dit d'accord, et c'est...
Oui, alors, lui, parce peut-être que qu'il a dit d'accord,
en traînant des pieds, mais le problème, c'est que il faut pas rentrer dans ce jeu-là, et si tu mets pas les limites, franchement, c'est un coup à ce que ça se termine en divorce, en séparation, en catastrophe, parce que le mec,
en meurtre.
Alors oui, enfin c'est plutôt les nègres qui assassinent. Oui, mais ça peut finir en meurtre, c'est-à-dire que le négrillon
à
10
le
ans,
nègre,
peut prendre un couteau,
le nègre à 10 ans, il va vouloir se reproduire. Il va, alors, les enfants, on ne sait pas si c'est une femme, si c'est une fille ou un garçon. Enfin quoi que tu me diras, le nègre s'en fout. Mais peut-être va-t-il vouloir. Dans ses frères et sœurs d'adoption, je sais pas, mais bon, c'est pas peut-être, c'est certain en fait, hein, c'est certain. Faudrait arrêter quoi, ça ne rime à rien. Comme je dis dans une précédente émission, il faut apprendre, chers amis, à dire non. Hein,
c'est ça.
Tu n'es pas obligé de vivre
exactement
dans ton foyer avec des nègres. Ça n'est pas une fatalité. C'est, bon.
Tu ne partages pas ta bagnole avec un nègre, tu ne partages
pas
ton appartement avec un nègre.
Tu ne partages pas ta chambre, ta maison avec. Alors, oui, le covoiturage, c'est une chose. On avait notre auditeur tout à l'heure qui était à Ivry, qui faisait de la coloc. Déjà, c'est très, très, très limite, ça, de faire. Il s'est dans la survie, il se lance. Mike Horn, voilà, il va faire de la survie en milieu hostile avec des nègres, pourquoi pas. Mais là, quand tu as une maison, que tu dois quand même avoir une situation, te faire rentrer un nègre chez toi parce que ta femme, etc., oui, activité, mes couilles, je veux pas servir à rien. Il faut savoir dire non. Hein. Il faut savoir dire non. Là. C'est parce que tu vas saloper tes gosses. Là. Tu vas saloper tes gosses, tu vas tout saloper. Hein. C'est...
Ouais.
Top. Hein.
C'est criminel. Non, hein. C'est criminel.
Hein. C'est criminel.
Dernier courrier, messieurs, de cette émission. Alors là, on va dans les îles. On va dans les îles. Et à La Réunion, plus particulièrement.
Ah, la République.
L'or bleu. Ah. Oui, l'or bleu. Marine Le Pen est sensible à l'or bleu. le Front National, enfin le Rassemblement National s'engage très fortement dans cette direction, hein, puisque comme vous le savez, c'est un puits pratiquement inépuisable en termes de richesse, et pour ainsi dire, la France sans ces îles ne serait plus vraiment la France. C'est un peu comme avec les Juifs. Hein. Sans les Juifs, la France ne serait plus la France, et sans les Dom-Tom, la France ne serait plus vraiment la France.
Alors, c'est un puits sans fond.
Oui, aussi. Oui.
La France, c'est en fait, c'est France Fanon et la famille Mendès. Quoi.
Alors, eh ben, nous avons une auditrice qui est à La Réunion et qui essaye de survivre à La Réunion. Alors, voici ce qu'elle nous dit. Bonjour à vous. Votre site est vraiment super, j'adore, j'aimerais être tenu au courant si je change d'adresse. Oui, bien sûr. Il est toujours disponible d'ailleurs en cas de pépin sur democratieparticipative.me. Voilà, je rappelle, si jamais il y a un problème sur le site. Et évidemment sur l'Onion Tor, c'est-à-dire l'adresse Tor, qui est toujours aussi sur, à droite sur le site. Alors, je vis à La Réunion, au milieu des nègres, et vraiment, c'est un enfer pour moi. J'étais déjà un peu raciste avant de venir ici, mais depuis que j'habite au milieu des nègres, je me suis radicalisé. Je pourrais écrire un pavé entier des horreurs infâmes que je suis obligé d'écouter au boulot, étant la seule blanche. C'est vraiment insupportable. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, parce que c'est compliqué. Je soigne du nègre, et bien évidemment, je soigne gratos, grâce à l'AME, des Maorais, qui me crachent à la gueule, et je dois les soigner correctement et avec empathie. Ces primates ne parlent pas français, sont musulmans, et s'étalent de la poudre jaune sur tout le visage en guise de maquillage. Ne vous y trompez pas, si vous tapez « mahoraise » dans Google Images, vous aurez « de belles » entre guillemets « femmes nègres » aux traits relativement fins. Mais la réalité est tout autre. La mahoraise est une énorme baleine de 2,5 tonnes, un boubou bas de gamme aux couleurs criardes autour d'un ventre d'éléphant, un sac sur la tête, elles portent leur sac sur la tête comme en Afrique, et de la poudre jaune dégueulasse sur le visage. Ces négros ont des maladies du Moyen-Âge, inconnues de la médecine occidentale. On doit les soigner et payer leurs soins. Malheur à celui qui osera dire quoi que ce soit à propos de leur présence dans nos établissements et du financement de leurs soins. La plupart des Réunionnais eux-mêmes détestent les Maorais. Et pourtant, Dieu sait que le Réunionnais de base est un gros nez, un gros singe hyper raciste, à peine descendu de son arbre. Au détour d'une conversation à propos des pédophiles qui violent des enfants de 15 ans, j'ai pu apprendre que ça ne les choque pas, car eux ont déjà fait ça à 12 ans, donc 15 ans pour eux, c'est bon. Lorsque j'ai rétorqué que même anatomiquement, un gosse de 12 ans ne pouvait pas coucher avec une autre gamine de son âge, les Réunionnais m'ont appris que la bite d'un négrillon fonctionne parfaitement à 12 ans et qu'ils sont capables de copuler. Alors là, je ne vais pas donner le détail parce que c'est un peu cru, mais disons qu'ils ont parlé franco, comment dirais-je, du détail technique, si vous voulez. Donc ils disent qu'ils sont capables de copuler à 12 ans, et donc de, voilà... ce détail donné alors que je mangeais, donc à midi, m'a quasiment fait vomir. J'ai eu le malheur hier de dire au boulot que le coronavirus venait de Chine et que ces imbéciles bouffaient des chauves-souris dans des soupes et d'autres animaux sauvages à peine morts. La réponse de ma collègue, donc noire, a été « Bah ouais, mais c'est normal, les enfants. À Madagascar aussi, ils mangent les chauves-souris. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'ils mangent ?» Et nous, on mange bien des tangs. Alors, des tangs, ce sont des rats.
Gastronomie française.
Oh là 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 là, la République.
Joël Robuchon.
Non, mais c'est. Comment ça
s'appelle? Excuse-moi, Gandalf, je t'arrête, mais les tangs, c'est pas des rats.
C'est quoi alors?
En fait, les tangs, ce sont des porcs épics.
Ok.
Oui, c'est mieux. Non, mais je juge pas. Alors, je poursuis le courrier et ensuite on reviendra en détail sur tout ça. Ces négros de La Réunion sont de gros singes prêts à bouffer leur grand-mère et à violer leurs enfants à la moindre envie de cul matinale.
Ou l'inverse. Hein.
Oui. Au boulot, j'ai eu aussi la joie immense de savoir que les Réunionnais veulent que les Blancs construisent des écoles chez eux. Car les colons, À La Réunion, on appelle les blancs les colons ou les oreilles, en référence aux colons qui coupaient les oreilles des négros esclaves, du moins selon leur mythe. Donc ces colons pillent, ou pilleraient, leur île. Si la plupart des Réunionnais partent de La Réunion, c'est la faute du blanc. Parce que les médias font croire aux jeunes que c'est mieux en France et que les colons pillent leurs ressources, pas parce que La Réunion est un caillou enterré au milieu de l'océan. Si La Réunion est pauvre, c'est à cause du sale colon et des élus qui sont à la solde des colons métropolitains. La réalité est que les élus n'en ont rien à foutre ni du nègre réunionnais, ni du français métropolitain, tout ce qui les intéresse, ce sont leurs poches. Et donc, pour laver l'affront, les Français blancs doivent payer des écoles à La Réunion pour que le nègre de base puisse s'instruire, aussi décérébré qu'il soit. Dans la tête des Réunionnais, leurs négrillons partent étudier en métropole car le sale colon refuse de construire des écoles. Il faut donc dire à toute personne qui manifeste contre la réforme des retraites que non seulement ils n'auront pas de retraite, mais qu'en plus ils devront payer des écoles sur une tombe flottante au milieu de l'océan. Je finirai sur un point dont personne ne parle jamais en France, ce sont les sacrifices d'animaux auxquels se livrent les Tamouls. Les Tamouls sont des hindous répugnants, ultra-racistes, radicaux, mauvais envers les blancs qui n'hésitent pas à leur cracher à la gueule ouvertement. Ils sont pires que les nègres. Si vous allez au marché de La Réunion et que vous allez sur un étal tenu par un Tamoul, vous aurez la surprise d'entendre que le prix d'un kilo de tomates a subitement doublé lorsque vous pointez votre tête de sale colon. C'est une règle mathématique. À un étal de Tamoul, les prix doublent à l'approche du blanc et diminuent de moitié lorsqu'il repart. Ces Tamouls immoraux et abjects font régulièrement dans l'année des sacrifices d'animaux payés par le sale colon et soutenus par les maires de la ville. La pratique consiste à faire des cérémonies qui puent l'encens, à marcher sur des braises comme un singe démoniaque, puis à couper la tête d'un animal vivant, tenu à quatre pattes par d'autres démons. Un passage sur
Généralement
YouTube...
Généralement d'une chèvre.
Ah, on a un expert, hein, je vous ai prévenu. Alors, un passage sur YouTube satisfera votre curiosité. Voilà, si vous êtes curieux, allez sur YouTube, sacrifice, réunion, tamoul, hindou, je sais pas quoi, et vous trouverez des trucs. Ces sacrifices sont parfaitement illégaux, car non réalisés dans des abattoirs, leur mode de transport est illégal, le mode d'abattage est illégal. J'ai également eu la chance infinie, grâce à mon métier, d'apprendre que le tamoul de base se soigne avec des remèdes plus que sataniques, du genre... Poudre dégueulasse sur les plaies, égorger un pigeon et faire couler son sang protège du mauvais œil, mettre un pigeon mort sous son oreiller aussi, et enfin le clou, retirer un escargot de sa coquille et mettre le jus d'escargot dans les oreilles permet de soigner les maladies. Mettez-vous à ma place et imaginez ma tête lorsque j'entends ce genre d'ineptie tous les midis, et que je dois faire profil bas car je suis la seule blanche, au milieu d'une horde de nègres prêts à se jeter sur moi au moindre mot un tant soit peu sensé, et que seul le bon sens m'obligerait à dire, mais qui me ferait passer pour une sale raciste nazie. Alors, c'est plutôt une qualité. Hein. Je ne supporte plus de vivre ici. J'ai encore un an et demi à tenir, et après je souhaite partir chez les Vikings. Je souhaite vivre dans un pays peuplé uniquement de blancs, avec des vrais arbres, des chênes, des hêtres, du sapin. Et pas des palmiers dégueulasses et d'autres plantes grasses, aussi grasses que le cul et le ventre des négresses d'ici, toutes en cloques à 12 ans. Alors merci à notre auditrice qui nous a livré
Quelle merveille
une véritable plongée sur cette île charmante de La Réunion. Diabolix, je me tourne vers toi, tu connais beaucoup de choses, grâce à ta sagesse et à ton expérience de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire à notre auditrice ou
tout
du
d'abord, tout d'abord, avant d'aborder le sujet proprement dit de cette merveilleuse auditrice, il faut quand même rappeler qu'à l'île de la Réunion, il existe un personnage extraordinaire que nous devrions inviter sur nos ondes. Ce personnage s'appelle Jacques Tillier. Alors, si mes souvenirs sont bons, il est éditorialiste au journal Le GIR, le journal de l'île de la Réunion. Mais surtout, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique, Jacques Tillier travaillait dans un journal qui s'appelait Minute.
Ouais.
Et il s'est fait plomber par un certain monsieur Mérine, abandonné pour mort dans une champignonnière, si mes souvenirs sont bons. Et bon, ben, il est allé passer ses jours à La Réunion pour se faire une santé, où il a brillamment réussi dans la presse là-bas. Il connaît énormément de choses, Jacques, énormément. C'est véritablement quelqu'un qui est extrêmement pointu sur le domaine. Et c'est quelqu'un qu'il faudrait vraiment inviter sur nos ondes. Il pourrait nous en raconter beaucoup. Maintenant, j'ai commis quand même une petite erreur. Le tang, ce n'est pas du porc-épic, c'est du hérisson, pour être exact. Et pour ne rien te cacher, il mange aussi les larves de guêpe. C'est délicieux.
T'es ironique
bon,
ou pas? Non, je te pose la question.
Pour en revenir à notre auditrice, ben, j'aurais tendance à dire que oui, elle a parfaitement décrit le problème. Elle l'a décrit d'un point de vue médical, elle ne l'a pas encore décrit du point de vue de la réalité sociale de ces chances pour la France, qui arrivent en tant que réfugiés, se retrouvent généralement
tu parles des Mahorais,
dans ce que l'on appelle... Pardon ?
Tu parles des Mahorais, là.
Oui, oui.
Ouais.
Qui se retrouvent généralement, une fois à La Réunion, dans ce qu'on appelle des cases en bois sous tôle. Donc, en fait, tu fais une infrastructure en bois, tu mets de la tôle dessus comme toi et tu essayes de vivre en dessous. Alors, ils louent des taudis. Et le principe, bon, ils connaissent à fond les manettes la loi française. Mais je dis bien à fond les manettes. Donc, en réalité, quand ils louent un taudis, ils s'arrangent pour que le taudis brûle. Résultat des courses... Monsieur le préfet est obligé de les loger, aux frais de la République, bien entendu. c'est vieux comme le monde. Hein. C'est connu de tous les créoles qui commencent à en avoir, mais véritablement marre. Alors, le créole...
Il faut expliquer, le créole, pour bien se comprendre, le créole dans les îles, en fait, c'est les blancs qui sont établis dans les îles, c'est ça que tu veux dire.
Ah non. Ce dont tu me parles, c'est du yab. Alors, le yab, en fait, c'est une famille de blancs qui se sont installés à La Réunion, qui se sont généralement envoyés les femmes de ménage et les esclaves parce qu'il y avait que ça à se mettre sous la dent, et qui, à l'heure actuelle, sont grosso modo complètement africanisés. C'est des mentalités, mon gars, mais je te jure, c'est à se taper la tête au mur. Parce que, grosso modo, tu vois un type qui te ressemble, mais qui a le cerveau d'un mec, d'un Nigérien, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, en fait, le principe, c'est que ces gars-là, ils essayent d'évoluer dans une île où ils sont envahis par les gars qui viennent de tous les Comores, c'est affolant, c'est extraordinaire. Le problème de La Réunion, c'est que c'est une île, c'est pas extensible à l'infini. Donc, si tu veux, le problème, c'est que les terrains sur lesquels tu peux bâtir deviennent de plus en plus rares. Mais comme c'est expansif, il n'y a pas moyen de faire autrement, l'agriculture devient de plus en plus rare puisque les terres agricoles sont de plus en plus effacées pour faire place au logement. Franchement, c'est une île de ouf. C'est des malades complets. Alors, si mes souvenirs sont bons, à l'heure actuelle, au Conseil général, depuis pas mal de temps d'ailleurs, à moins que ça n'ait changé, c'est Nassima Dindar. Alors, la famille Dindar, c'est des Pakiches.
Ah, le Pakistan, donc. Là.
C'est des pack-packs.
D'accord.
Donc, je t'explique pas, ils sont muses à fond les manettes. Et évidemment, si tu veux, l'île de La Réunion, mais c'est le microcosme complet de la France. C'est-à-dire que c'est des gens qui pratiquent des cultures et des religions différentes, qui officiellement s'entendent à merveille, sauf que dès que les médias honorables ont le dos tourné, ils se crachent à la gueule et ça n'en finit pas, quoi. Ils se haïssent d'une façon absolument considérable. C'est fabuleux, La Réunion. La Réunion, tu peux faire 10 émissions là-dessus.
Est-ce que tu peux me dire... tu parles de diverses cultures. Là, notre auditrice parle des Tamouls. Toi, tu nous parles de Pakistanais, là, c'est des musulmans à bloc. Alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est quoi les grandes religions de l'île? Et quand tu dis ils s'affrontent, ça prend quelle forme, en fait?
Ah, mais alors, tu as de tout. Alors, en fait, tu as des Tamouls, tu as des Malbars, donc ceux qui sont venus de la côte malbaraise de l'Inde à la fin de l'esclavage pour pouvoir exploiter les cultures. Tu as les Chinois qui généralement se sont lancés dans tout ce qui est magasin, petit commerce. Tu as les Pakistanais qui sont arrivés. C'est un espèce de melting pot absolument invraisemblable dans lequel tu vas retrouver toutes les religions possibles ou imaginables. Tu as les catholiques. Alors, ah oui, oui, il y a eu les... Le putain, ça, c'était génial. Il y a eu l'épisode du petit lys d'amour.
Alors, ah, il y a un fait entrer l'accusé dessus, d'ailleurs, sur ce...
Voilà, alors, petit lys d'amour, je t'explique le topo, c'est le top, ça, c'est sublissime. Donc, en fait, c'est un gars, je crois qu'il était d'origine malbaraise. Brusquement, il déclare qu'il a vu la Vierge. Il s'est créé sa petite secte, et comme le mec était pédophile, il s'est amusé à niquer des gosses à La Réunion, avec évidemment la secte qui le protégeait à fond. Les flics sont intervenus, ils ont libéré les gosses, le type est arrivé à s'enfuir, je ne sais plus si c'est de la prison de Lille ou d'un commissariat, je ne sais plus. Ça a fait une chasse à l'homme absolument extraordinaire avec Illico, tout le bazar, où on s'est aperçu que la secte lui avait trouvé une planque, les nanas venaient dans un appartement pour pouvoir lui fournir de la bouffe, des matériaux pour les soins, du savon, du détergent, tout ce que tu veux. C'est fabuleux. Ça, c'est La Réunion.
Et lui-même d'ailleurs s'était évadé grâce à un hélicoptère. Voilà. Et effectivement. Ah ouais. Les flics ont eu énormément de mal à loger le type parce que le nombre de personnes dans la connivence, en fait, Chuklil était dans la connivence, quoi.
Ah, d'accord.
Personne voulait dénoncer le criminel. Voilà, c'est juste, c'était un délire, quoi.
Pour préciser un petit peu au niveau politique, c'est le département est présidé par un républicain. Qui s'appelle dorénavant Cyril Melchior. Alors, c'est une espèce de métis. Mais je sais pas si vous... Enfin, en tout cas, en France, hein, les gens qui s'appellent Melchior, ce sont pas les rois mages, ce sont des juifs.
Hein, oui, oui. Il n'y aurait pas du planteur juif de quelque chose, d'un truc comme
ah,
ça.
Ah ben là, Melchior, moi, j'ai mon radar qui se met en route. Hein.
Alors, comment dire Diabolix, notre auditrice parle vraiment en mal des Tamouls et dit ils sont pires que les nègres. Toi, tu penses que c'est vrai ou tu les mets à égalité, tu dis oh, c'est bien la même merde.
C'est-à-dire que si tu veux, bon, Tamouls et Malbars, ils sont arrivés. Alors, c'est le même bordel. Bon, c'est le principe de la République française. C'est-à-dire qu'on va toujours te dire on est laïque, mais il faut nécessairement que ces gens puissent respecter leurs traditions. Donc, le gros problème, c'est que ces gars-là ont des temples, temple tamoul, temple malbar, dans lesquels se déroule une quantité absolument invraisemblable de cérémonies qui font un boucan dans le quartier, mais quelque chose de pas possible. Si tu as ta case à côté de ce genre de truc, c'est pas des boules quies que tu dois acheter. Tu peux te couler du béton dans les oreilles. Alors, ils te font des défilés dans quasiment toute l'île. Et effectivement, tu as les cérémonies qui consistent gentiment à prendre une chèvre et à l'égorger au sabre. Bon, je vais pas critiquer la chose puisque moi, je tue mes cochons. Donc, je vais pas m'amuser à les électrocuter avant ou à les envoyer chez un psychanalyste pour dire « Écoute, mon gars, tu vas mourir, c'est la fin de ta vie. Je le plante, il gueule pendant 5 minutes, point barre. » Mais le problème, c'est que ces gars sont tellement... Si tu veux, les communautés sont tellement exacerbées que ce sont des bombes à retardement permanentes. Ces gens sont installés en République, la déteste. En plus, l'île de La Réunion, il faut bien se rendre compte qu'elle ne vit que par la fonction publique. Hein. Mmh. Parce que les taxes pour les indépendants sont telles que si tu ouvres un restaurant, si tu ouvres une entreprise quelconque, tu te fais massacrer par le fisc d'une façon absolument délirante. D'ailleurs, à propos, il faut savoir qu'à l'île de La Réunion, le dépôt des bilans annuels des entreprises n'existe pas. Ça existe partout dans l'Hexagone, ce qu'ils appellent la métropole. Mais à La Réunion, tu déposes jamais tes bilans. Et en fait, toutes ces communautés se haïssent cordialement, mais cordialement. Alors évidemment, bon, t'as pas un seul média qui va dire la vérité. T'écoutes les sempiternelles débilités d'Antenne Réunion, bon, c'est à pisser de rire. C'est toujours le même répétitif, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais il faut pas se leurrer. Tu as une bombe atomique qui, au niveau culturel, finira par exploser. Et qui finira par exploser d'une manière très simple. L'État français n'a plus de blé. Ils n'ont déjà plus de blé pour l'Hexagone. Donc à un certain moment, c'est clair qu'ils vont bien expliquer à ces braves gens que bon, ben, démerdez-vous tout seul, bonne chance. Ce jour-là, je plains les blancs qui sont dans l'île.
Ah d'accord, donc toi, tu nous dis plusieurs choses. Tu dis d'abord, il y a un flux permanent d'immigration clandestine, notamment des Maorais, mais pas uniquement, mais il y en a beaucoup. L'espace, bon, comme tu dis, bah, il est de plus en plus réduit. Ça ne fait qu'accentuer les tensions. Avec une petite musique religieuse en arrière-fond, puisque les Maorais sont musulmans, blablabla. Et, comment dire, tout ce beau monde-là, en fait, n'est pas encore tout à fait sur le point de s'égorger, pour une bonne et simple raison, les Blancs sont là pour arroser tout le monde et calmer un peu les esprits de temps à autre. Et toi, tu dis, bon, voilà, le jour, en fait, où l'État français, il ne peut plus honorer, je ne sais pas, 20-30% de ce qu'il honore actuellement, tout d'un coup, on va voir de notamment, mais pas que, de la chasse aux blancs sur l'île. C'est ça que tu dis, quoi.
Ah ben c'est clair. Mais attends, je vais même te sortir un autre truc, parce que j'avais vu ça sur Internet, c'est à mourir de rire. Ils avaient eu des aides européennes pour le cheptel. Donc en fait, ils ont acheté en France du cheptel bovin, qui est arrivé évidemment par bateau. Le problème, c'est que le cheptel bovin avait, je crois, grosso modo, 10 maladies transmissible à l'homme, parce que évidemment ces cons, ils avaient acheté n'importe quoi, vu que c'était pas cher, ils s'étaient fait refiler toutes les carnes possibles ou imaginables de l'Hexagone. Résultat, une fois dans l'île, ils avaient interviewé le patron des vétérinaires, des médecins vétérinaires, qui leur avait dit, de toute manière, j'autorise le débarquement des animaux, parce que vous comprenez bien qu'avec autant de maladies, pour moi, c'est gagné au loto pour tous les vétérinaires de l'île. Donc en fait, ils ont débarqué ces bestiaux qui ont contaminé tout. Mais quand je dis tout, ils ont contaminé les vaches, ils ont contaminé les chèvres, ils ont contaminé les moutons, ils ont contaminé mais absolument tout. Il y a des gars qui se sont retrouvés ruinés, qui n'avaient plus un rond et qui en plus, comme c'était des aides européennes, ils n'avaient plus un animal chez eux à cause de la contamination, mais ils devaient continuer à rembourser l'Union européenne, puisque de toute façon, c'était sur le contrat. Ça a fait un scandale absolument monstre. Le lait était tellement contaminé qu'il fallait distribuer aux mômes du lait en poudre reconstitué de peur de leur filer des maladies. C'est ça l'île de la Réunion, mon gars. Ils ont une saloperie d'ananas qu'ils appellent l'ananas Victoria. Alors, le problème, c'est que comme le nombre d'habitants est démentiel et qu'il y a il y a de moins en moins de terres cultivables, l'ananas Victoria, il pousse dans des endroits à flanc de colline où il n'y a pas d'eau. Donc en fait, ces ananas sont arrosés avec des eaux qui sont des eaux 100% non potables. Et comme l'île de la Réunion, c'est la France, ça atterrit par avion, accroche-toi bien, les ananas sont transportés par avion jusque Paris. De là, ils atterrissent à Rungis. Et ces saloperies sont distribuées dans le monde entier, alors qu'en fait, vu la qualité d'eau avec laquelle on les arrose, j'oserais même pas les toucher. Ils te vendent leur putain de vanille comme étant la vanille de l'île de la Réunion, le truc le plus exceptionnel qui soit au monde. En fait, tous les producteurs de vanille de l'île quand tu regardes au niveau des douanes, quand tu fais les contrôles de passeport, tu t'aperçois que tous ces mecs, ils se tirent joyeusement à Madagascar, ils achètent leur vanille là-bas, ils la réimportent à La Réunion, ils la vendent comme vanille réunionnaise. Jusque-là, tu vas dire, bon, ok, c'est du commerce, c'est pas un gros problème. Sauf que les mecs se sont fait gauler parce qu'en réalité, ils avaient monté des sociétés offshore dans les îles anglo-normandes. Parce que, en fait, le ministère des Finances, le Quai de Bercy, surveille l'île Maurice à fond les manettes pour les fraudes fiscales. Mais ces cons ne se sont jamais posé la question de savoir est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas un Réunionnais à Jersey, à Guernesey ou autre. Ils y sont tous.
Ça continue? Ou ça a arrêté?
Moi, je peux continuer comme ça pendant des heures.
Non, je veux dire, ça l'arnaque du blanchiment de pognon dans les îles anglo-normandes, ça continue ou bien ils sont fait attraper les gars là?
Certains se sont fait attraper, mais ça continue. Tu te fais attraper, il n'y a rien qui t'empêche d'ouvrir une holding juste à côté de l'autre.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, je me rappelle récemment, hein, c'est cette année, mais c'est un truc qui s'installe, l'État islamique a ouvert une succursale à La Réunion. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Ouais, mais t'as pas que ça.
Ah non,
cadres de l'État islamique sont réunionnés, de toute manière. Hein.
Oui, j'ai pas dit qu'il y avait que ça. Mais je veux dire que la Réunion, il y a des cellules de l'État islamique, entre autres. Je veux dire, c'est ce qui rajoute, évidemment, Vous allez me dire, oui, et alors, en France aussi, bien sûr. Mais je veux dire,
le charme de la République.
Voilà, ça donne... Je trouve que ça ajoute du cachet, quoi.
Mais je te rappelle un truc assez gag. Bon, alors, l'île de la Réunion, tu as une ville, on appelle ça le chaudron. Là-dedans, c'est le concentré de misère humaine à l'état pur. Bon, alors, à l'époque, se trouvait un gars qui faisait une radio libre, qui s'appelle Monsieur Camille Sudre, qui a épousé une nana qui s'appelle Margie Sudre, qui a fini députée européenne, et plus que probablement maîtresse de Jacques Chirac. En fait, quand il a créé sa radio, il a voulu faire une télévision. Et le préfet a interdit la télévision. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Ça a créé des troubles au niveau du chaudron. Mais des troubles tels qu'à l'époque, un certain François Mitterrand n'a eu d'autre solution pour ramener le calme dans l'île que d'y installer l'armée française et plus particulièrement le 2e RPIMA, Régiment d'infanterie parachutiste de marine.
Ah oui, donc c'est ça. Oui, ça devait bouillir alors. Déjà à l'époque. Qui veut poser des questions, réagir à ce courrier, faire valoir un point en particulier? Qui veut rajouter quelque chose? Moi, j'ai bien découvert des trucs, en tout cas. Diabolix nous apprend pas mal de choses en plus de ce courrier. Derek, Fulbert...
Je vous apprends très très peu, les gars. Il y a
oui, non, ça, je, oui.
Très, très content de payer des impôts, en tout cas.
Ça coûte une fortune.
Voilà, c'est un petit peu le...
C'est les colons qui pillent les ressources de la Réunion, bien sûr.
Bah, ça fait un peu le lien avec France...
Calculer combien ça nous coûte, toutes ces conneries, quand même.
Ça fait le lien avec France Fanon, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, voilà, le France Fanon, c'est ça. C'est la Réunion. Hein. Et les colons blancs, on leur crache à la gueule, même s'ils leur torchent le cul, ils payent pour tout. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire. Voilà. C'est même un peu la même histoire avec la famille d'accueil, hein, je veux dire.
Avec le...
Mais ils ont, attention, ils ont leur putain de route littorale. Alors la La route littorale qui est basculée en permanence parce qu'en fait, elle est le long d'une falaise dont les blocs de rochers s'écroulent dessus à longueur de journée. On appelle ça la route de la mort parce que quand tu l'empruntes, soit t'as la chance du loto, soit t'es en dessous, quoi. Bon, en fait, ils avaient tellement d'emmerdes avec ça qu'ils sont arrivés à pomper un pognon de con, mais je dis bien de con, avec
des milliards,
l'Union européenne, la France et tout, pour te faire une route qui est carrément décollée sur pilotis en plein milieu du front de mer. C'est de la folie furieuse.
Oui, je crois que le chantier est en cours et ça coûte des milliards d'euros hein, pour faire quelques kilomètres à peine. Hein. C'est délirant. Hein.
Ah mais tout à fait. Et attends, c'est pas fini. Il faut savoir que le contribuable français a payé, je vais pas rentrer dans les détails, 500 000 euros pour qu'un fils à papa de Lille finisse par avoir un job de directeur dans une grande surface. Tout ça à l'international, je t'explique pas le bonheur.
Ouais, enfin, 500 000 euros, ça c'est rien par rapport à ce que coûte cette putain de route là sur le bord de mer. Enfin, c'est des milliards. Hein.
Quand on aime, on compte pas. Hein, je veux dire. Et puis,
attention les gars, il y a pas que dans l'île, parce que il y a les Réunionnais de l'Hexagone. Alors, pour vous donner une idée du Réunionnais de l'Hexagone, le Réunionnais de l'Hexagone fait faillite dans son entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est foutu, t'as fait faillite, c'est cuit. Ben non, le Réunionnais est créatif. Donc, en fait, il va s'auto-cambrioler son entreprise pour pouvoir, avec l'intégralité des produits qu'il a récupérés à l'intérieur, vendre sur les marchés des produits réunionnais. Et c'est pas encore fini. Que te vend la Réunion? Les bananes, très peu. Les ananas, beaucoup. Et le rhum. Mais alors le rhum, il faut savoir que les romeries réunionnaises, t'en as une, si mes souvenirs sont bons, c'est le consul honoraire de Belgique qui en est propriétaire. Et les deux autres, en fait, bon, c'est complètement bouffé par le système. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui est basée dans le nord de la France, qui est une entreprise multinationale qui a un monopole extraordinaire dans le domaine du sucre. Et en fait, ces gars te produisent tous les extraits pour qu'un rhum de 48 heures t'ait 12 ans d'âge. Et tout ça, c'est vieilli artificiellement. Mieux encore, un rhum qui est produit à l'île de la Réunion, normalement, il doit avoir un sticker Milafé ou un truc du genre. C'est du créole, ça veut dire c'est moi qui l'ai fait. Quand tu retrouves ces rhums dans l'Hexagone, en aucun cas tu n'as ce petit logo dessus. Pourquoi ? Ben, c'est la question qu'on se pose. Parce que quand on voit la quantité de production de rhums au niveau des douanes et la quantité de rhum existante, il est fort possible qu'il y ait une quantité d'alcool en bulles chinois qui arrive. Alors, est-ce que c'est dans les ports réunionnais? Est-ce que c'est dans les ports français? J'en ai aucune idée. Mais quand tu vois la quantité de rhum qui est écoulée à l'international, c'est clair qu'il y a un énorme bug.
Oui, c'est comme le patrimoine, le vin corse. À un moment donné, il y avait une histoire comme ça. Le patrimoine, il y en avait partout. Hein, bon, en fait, c'était du vin, c'est du faux vin quoi, qu'il y avait. Hein. Mmh. Mais alors, pour venir aux chiffres un petit peu, je suis allé regarder. Le fameux chantier de la route du littoral à La Réunion, c'est 12 km de route. Hein, 12 km. Hein, uh-huh. 12 km. 2 milliards d'euros.
Oh,
2 milliards d'euros, c'est ce qui est annoncé. C'est-à-dire que ça en fera au bas mot 3 ou 4 en étant raisonnable.
Hein, oui. Donc en fait, ça coûte un porte-avions nucléaire, en gros. Quoi.
Oui, mais un porte-avions nucléaire ne te permet pas de nourrir autant de nègres.
C'est certain. Porovic, tu voulais prendre la parole aussi?
Ouais. Moi, je suis choqué parce que j'évolue pas du tout dans ces environnements. Je vis dans un monde où c'est à 80-90% blanc. Quand j'écoute des témoignages comme ça, je suis sur le cul. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est comment ça se fait qu'ils sont haineux à ce point-là? Parce que La Réunion, pour eux, mais c'est le jackpot, en fait, en vérité. On les arrose d'argent de façon incroyable. Ils doivent bien s'en rendre compte, puisque à côté, les îles qui n'ont pas le bénéfice de tout ça, ils viennent à La Réunion.
et en même temps, ils continuent de nous haïr. Je ne comprends pas, en fait, ces gens.
Bah, c'est le même dilemme que pour l'activiste de Mayotte, là, le copain de Tobia, qui est indépendantiste. Puis quand on lui propose, non, mais attendez, vous vraiment l'indépendance sans les sous de la France ?
Ça, c'est Élie de Motta, c'est la Guadeloupe.
Autant pour moi. Merci pour les précisions. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent pas l'indépendance. Le jour où ils sont indépendants, tu leur files l'indépendance. Le lendemain, bah, il y a plus rien, quoi.
Haïti.
Bah, c'est Haïti, hein.
Ouais, oui, mais ils le savent quelque part.
Alors, mais non, mais ils savent comment ça. Rapport, il faut que tu comprennes qu'ils savent que les blancs ne comprennent rien, mais ils savent comment fonctionnent les blancs. Tu vois, c'est-à-dire, ils se disent, oui, quand tu t'énerves devant le blanc te file ouvre son portefeuille pour avoir la paix. Et c'est comme ça que ça marche. Hein, le blanc.
Excuse-moi, Derrick. Je vais t'expliquer un truc encore plus gaque au niveau culturel. Bon, il est courant en France d'avoir des groupes culturels réunionnais qui débarquent pour faire des concerts. À chaque fois, les types, ils commencent à t'expliquer. Parce que, en fait, le leitmotiv à la Réunion, c'est « fais pitié ». Faut faire pitié. « Mina boin rien, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, la vie est dure, gna 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 ». Bon. Alors, faut savoir un truc, c'est que tous ces artistes qui viennent faire de la musique dans l'Hexagone, ils commencent à t'expliquer que bon, ils ont pris l'avion, que l'avion ça coûte cher, patati patata. Alors, faut savoir un truc, c'est que c'est le conseil général qui paye l'intégralité des frais de déplacement et le logement sur place. L'intégralité. Donc les types, ils ont leur cachet, sur place, ils sont nourris, logés, l'intégralité de leurs frais de bouche sont pris en compte, ils n'ont strictement rien à foutre si ce n'est joyeusement chanter. Et après ça, ils rentrent chez eux. Et quel est le con qui paye ? Ben, si c'est le Conseil Général, à ton avis, c'est l'État français. Et l'État français, qui sait ? C'est le con tiré tribuable.
Ouais, c'est génial. Et en plus de ça, ils rêvent que d'une chose, c'est de nous égorger. Eh ben, disons.
Oui, parce que ils ont, bah oui, c'est des nègres, hein, donc ils ont pas pigé que c'est la poule aux œufs d'or. Tu vois, ils ont qu'une envie, c'est de tuer la poule aux œufs d'or. Hein. C'est des nègres. Quoi. Bah écoutez, c'est une plongée dans une île que je ne connaissais pas. Merci Diabolix de tes lumières. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler hein, de cette île plus tard. Et ton expertise sera la bienvenue. Hein. Alors courage à notre auditrice qui tente de survivre au milieu des épidémies les plus affolantes.
Oui, petite mise en garde quand même à notre auditrice, parce que effectivement, toute cette logistique-là, ces nègres qui demandent à manger, qui s'énervent régulièrement, etc. Bon, et qui sont quand même relativement calmes, il faut le dire. C'est un jamais que l'économie mondiale se ralentisse parce que l'usine du monde qu'est la Chine se met en congé pour une durée indéterminée parce qu'il y a un virus. Moi, je ne serais pas vraiment tranquille en étant en île de la Réunion. Hein. Ça n'est pas un endroit où je souhaiterais être.
Bah, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit j'ai encore un an et demi à tirer. Hein. J'ai un an et demi.
Un an et demi.
C'est long.
Non, mais oui, enfin, là, un an et demi, si j'ai un conseil à donner à cette auditrice, c'est de prendre des congés, là, peut-être.
Moi, il y a une chose que je me permettrai de dire à cette auditrice. Elle me comprendra, vous peut-être pas.
Ouais.
Tiens beau, l'arc pas le corps.
Magnifique. Alors, messieurs, rubrique suivante, numéro 3. Le sale juif de la semaine. Alors, on change complètement d'univers. Et cette semaine, c'est Samuel Artalet. Vous n'avez jamais entendu parler de ce juif. C'est la presse italienne qui nous le fait découvrir avec le courrier du... Le Corriere del Veneto. Je ne parle pas italien, donc vous me pardonnerez l'accent. Et ça se passe à Padoue. Alors, je vous livre cet article. Une vérité gênante. C'est celle de Samuel Artalet, von Belsky-Lévy, un Padouan de 83 ans qui a passé les dernières décennies à témoigner dans les écoles et les municipalités sur sa détention à Auschwitz alors qu'il n'était qu'un enfant. Un message rempli d'émotion dont a découlé des débats profonds et nourris. Cependant, il semble que le témoignage soit faux. Artalé, qui a toujours dit qu'il était né à Rostock en Allemagne et qu'il était le fils de déportés juifs prussiens dans les camps d'extermination, est en fait né en Calabre, tandis que son nom n'apparaît nulle part dans les archives de l'Holocauste, tout comme il n'y a aucune trace de lui et de sa famille à Rostock. La nouvelle a été rapportée vendredi par le Gazettino, donc c'est un journal local, à, apparemment ce que soupçonnait déjà un historien de la déportation vénitien, à savoir qu'Artalé n'avait rien à voir avec la tragédie juive, entre guillemets, donc a finalement trouvé une confirmation officielle. L'histoire rappelle, alors, rappelle celle du livre. Oui, alors là, c'est l'article continue. Alors là, nous sommes, bon, on a parlé longuement hein, de la fête de l'Holocauste, hein, puisque c'était la fête de l'Holocauste la semaine dernière. Bon, je ne vais pas y revenir. Mais là, voilà, on a un survivant.
Encore. Bien,
oui, mais qui n'a survécu à rien, en fait. Donc, voilà. Des juifs mentiraient-ils ?
Oh ! Hein ? Comment peux-tu avoir une pensée pareille ? Allons.
C'est vrai, c'est peut-être une trouble de la personnalité, je ne sais
peut-être
pas.
Peut-être qu'il s'agit simplement d'une licence poétique.
C'est ça.
Le juif serait-il menteur ? Oh, c'est marrant, j'ai découvert un truc très récemment, c'est une série qui est très très connue. C'est un mythomane extraordinaire, s'appelle Serge Mito. Et, coup du sort, l'acteur est un putain de youpin caricatural.
Alors, l'article poursuit, il rajoute un truc, il dit, voilà, apparemment l'histoire d'Artalé était également connue dans les différentes communautés juives, mais à propos de cette période de l'histoire, il semblait complexe pour beaucoup de démasquer une histoire similaire, donc en fait de faire le trier le vrai du faux, donc c'est ce qu'ils nous disent. Hein.
Ouais, c'est étrange. Hein.
Attends, surtout par crainte que le tout ne soit entraîné dans une spirale de déni qui en 7 ans pourrait être facilement exploité. C'est quand même nous les salauds, c'est quand même les blancs les salauds, ils sont... On les connaît, hein.
Oui, le blanc très très méchant, toujours à l'affût d'une faille pour salir la grande histoire du petit peuple.
Voilà, ouais, donc vrai. En fait, le juif raconte un bobard pour tirer les larmes du goy et lui faire les poches, on va dire. Et pourquoi ? Bah, c'est à cause de l'antisémitisme, en fait. Hein. Ah. Rien.
Mais écoute, quand on vient d'un tel peuple d'artistes raffinés, on est en droit d'user de la licence poétique.
Oui. Oui, c'est un droit qui est reconnu. Hein.
Et d'en abuser aussi, d'ailleurs.
Alors, je voulais commencer comme ça, parce que, bon... Voilà, on entend beaucoup de parler. Moi, j'ai jamais vu autant de survivants. Hein. C'est un bombardement, je veux dire... Il y en a partout. Dès que j'ouvre Internet, paf, un survivant de ceci.
C'est à se demander si les soins n'étaient pas extraordinaires à Auschwitz. C'était une forme de cure, en fait.
Moi, j'aime bien les camps d'extermination où on envoie les enfants dans un four et où il y a des maternités, tu vois. C'est, ça passe au journal sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si c'est un test de QI qui est fait pour... On se dit, oui, les gens sont cons, on va leur dire qu'on tue les enfants systématiquement, et on va leur dire 5 minutes après qu'il y a des maternités avec des juifs qui accouchent, ou des enfants sont nés, ou tu as des rassemblements de juifs nés à Auschwitz qui chaque année se rassemblent, et non, ça tilte pas. Les gens, visiblement, ont des problèmes à faire des associations d'idées, de concepts. Et ça ne passe pas, c'est étrange. Hein.
Alors, j'ai une histoire à vous. Toujours dans pour le devoir de mémoire. Hein. C'est un extrait d'un article qui est consultable en ligne hein, et qu'on retrouve dans le New York Times, que je ne me trompe pas, au niveau de la date, donc du 10 novembre 1988. L'article est signé par un certain Harry Goldman. Et il s'intitule « Trop douloureux pour s'en rappeler ». trop douloureux pour s'en rappeler, donc évidemment, pour parler de l'Holocauste. Alors, il y a un passage dans cet article, donc de ce témoignage d'un survivant qui s'appelle Monsieur Hubert, donc c'est un juif qui s'appelle Hubert. Et voici ce très court passage, mais c'est un moment important de l'histoire de la déportation. Plus tard, Monsieur Hubert a été envoyé à Buchenwald. Dans le camp, il y avait une cage avec un ours et un aigle, dit-il. Chaque jour, donc les SS jetaient un juif dans cette cage. L'ours le déchiquetait, le mettait en morceaux, quoi, tandis que l'aigle ramassait les os.
Mais c'est rigoureusement impossible.
Attends, mais c'est incroyable, dit un visiteur. Oui, c'est incroyable, dit Monsieur Hubert.
C'est pour ça qu'il faut y croire.
Mais attends. Mais cela s'est passé. Ah, vous ne connaissiez pas la cage de l'ours et de l'aigle de Buchenwald, eh ben.
Alors moi, j'ai une meilleure version. Dans la mienne, l'aigle crève les yeux du juif avant que l'ours le mange.
Ah oui, oui.
Pas mal.
Alors moi, j'ai une autre version d'horreur de l'indicible. Une certaine poésie que je vais me permettre de vous lire, ça prend très peu de temps.
D'accord.
Survivant, hein, survivant d'indicible. Non loin de nous, des flammes montaient d'une fosse. Des flammes gigantesques. On y brûlait quelque chose. Un camion s'approcha du trou et y déversa sa charge. C'était des petits-enfants. Des bébés. Des enfants dans les flammes. Elie Wiesel.
Ah oui, oui. Et des geysers de sang, des geysers de sang.
Et oui, il faut y croire. C'est incroyable, mais il faut y croire.
Oui, non, mais t'as vu, dans l'article du New York Times, le juif dit « C'est incroyable, ouais, hein, mais ça s'est passé. »
Oui, oui, c'est ça. Je te le dis, crois-moi. Trust me.
Et on peut leur faire confiance, hein. Comme en Italie,
ah oui,
où,
voilà,
où vous le voyez.
On va en parler un petit peu plus tard.
Sincèrement, les gars, essayez d'imaginer la quantité d'antiacide gastrique qu'un ours devrait ingérer pour pouvoir bouffer un juif. Il n'y survivrait pas.
Non, mais un par jour.
Ah ouais, un par jour en plus.
Un par jour.
Bah. Ouais. C'est tous les jours. C'est un peu pensé à Rosenblatt. Là.
Est-ce que quelqu'un a pensé à prévenir Brigitte Bardot?
C'est trop tard, c'est fermé. Le camp a fermé maintenant. Hein. Le zoo, c'est terminé maintenant.
Tu avais le juif, la Rosenblatt, qui disait, ça me fait penser à ça, vous parlez tous les jours.
Oui, le diamant.
Sa femme, elle arrivait au camp, là, je sais plus quel camp, puis elle lançait des pommes et puis du pain au-dessus de la clôture du camp tous les jours. Et puis le mec, il a fait un bouquin, il a fait un film, puis bon, mais après, bon, il s'est fait gauler, quoi. C'était un peu trop gros comme histoire.
ça me rappelle certains propos que Renoir rapporte. Parmi les fausses accusations, entre autres, en plus des chambres à gaz, on avait accusé les nazis de tuer les gens en les faisant monter dans des arbres et en coupant les arbres pour les faire tomber.
C'est les Allemands, tu vois, les mecs, ils sont vachement efficaces, quoi. Et ils vont t'inventer une tuerie de masse, tu vois, la méthode la plus compliquée qui soit, on scie des arbres ou des chambres à gaz. Ouais, oui, non, mais on y croit à fond.
Mais il y a le fameux holocauster. C'est pas le holocauster.
C'est quoi ça?
Holocauster, c'est un jeu de mots avec roller coaster. Roller coaster, c'est, en anglais, ça veut dire les montagnes russes. Alors, il y a un récit, c'est officiel, hein. Vous pouvez trouver ça dans la littérature concentrationnaire, c'est ultra répertorié, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, tu as des survivants donc de l'indicible qui disaient que on mettait les juifs dans une dans une espèce de train qui était jeté à toute vitesse sur des rails pour les bazarder sur une espèce de... Enfin, le truc se retournait, on les déversait. Mais des trucs, mais délirants, quoi. Et alors, du coup, les mecs, pour se foutre de la gueule des bobards juifs, ils appellent ça le roller coaster, parce que les types t'expliquaient qu'ils faisaient voyager les juifs du camp de concentration jusque vers la chambre à gaz dans une montagne russe.
Enfin, ouais, ça, c'était ça. C'est Salomon, tu vois, et puis Salomon et Moshe, ils étaient dans un train fantôme, ils ont dit, tiens, on va inventer une histoire pour les goy, là. Non, mais sérieux.
Mais il y a d'autres trucs aussi. Il y a la plaque humidifié, qu'on électrise aussi. C'est-à-dire, il disait, voilà, il y avait une grande plaque, les juifs marchaient dessus, il y avait de l'eau, et ensuite on foutait le jus, et tous les juifs étaient morts, etc. Et ils ont raconté que des conneries comme ça. Alors après, ça c'était tous ces témoignages, vous les retrouvez, hein. Alors après, les mecs, ça n'a pas été retenu après coup.
Parce le que traumatisme que peut causer une pelle, c'est incroyable.
Ah oui. Mais vous en avez des tas, des trucs comme ça. Alors plus tard, parce que ça a été une fête, hein, je veux dire, on va dire dans les 10 années, 20 années suivantes, ça a été une fête, là, tout le monde, les récits, des trucs. Puis, comme les gens, enfin, des révisionnistes, des gens un peu critiques ont commencé à s'intéresser à tout ça, ils commencent à essayer de trier, de comprendre, ils se disent, qui c'est que ces trucs? Alors, l'historiographie officielle a commencé à écarter tous ces trucs. Mais pourtant, ils sont bien présents, hein. C'est des gens qui disent, voilà, j'ai été déporté, j'ai été à tel endroit, etc. J'ai vu ça, les mecs, ils ont effectivement été internés dans ces trucs-là, ils racontent n'importe quoi. Et on a discrètement oublié ces témoignages, mais qui, à l'époque où ils ont été racontés, donc il y a peut-être 60 ans, étaient tenus pour vrai, au même titre que les chambres à gaz. Ouais. C'était du même...
Pas que 60 ans, c'est-à-dire que la plupart de ces Olibrius se sont découverts des souvenirs 40 ans après, en général. Hein. C'est,
oui.
C'est dans les années entre 70 et 90 qu'ils sont sortis, la plupart.
Oui, oui, comme par hasard. Ouais.
Dès que le business a été mis en place, en fait. Hein,
ouais,
a été mis en place dans les années 70. Donc, dès qu'ils ont vu la poule aux œufs d'or, tu as eu des juifs qui se sont rappelés soudainement qu'ils avaient souffert. D'avoir reçu une pelle.
C'est la théorie officielle. Hein. C'était tellement invisible, tellement incroyable que nous n'avons pas pu le dire avant les lois mémorielles et compagnie.
D'ailleurs, aux dernières nouvelles, les plus traumatisés, en fait, ça serait les personnes de troisième génération.
Oui.
Le traumatisme serait supérieur à ceux des deux générations d'avant.
Et pour entretenir...
et celui de la quatrième sera encore supérieur à la troisième. Donc... Le radicalisme juif dans le...
J'imagine que le montant des réparations aussi va être supérieur.
Bah, il est indexé sur le taux d'inflation, donc...
De toute façon, pour entretenir la mémoire, n'est-ce pas, j'ai vu dans un article tout récent que les 3e ou 4e génération, eh bien, commencent à se faire tatouer le numéro de déporté de leur ancêtre quand ils en ont un. C'est assez extraordinaire.
Bah, ça me rappelle un peu le fait que...
Les sanguins, hein.
Oui, c'est chacun ses...
Enfin, nous, c'est pas au poignet, quoi. Ça allait sale, quand même, plus...
Non,
bah,
bon...
c'est une bonne idée. Ça peut permettre des facilités logistiques.
Mais il faudrait qu'un... Je serais quand même preneur, cher Porovitch, après je donne la parole à Fulbert, mais je serais quand même preneur d'un très beau récit télévisé sur France 2 à propos du génocide par coupage de bois... C'était quand même pas mal, ça, je dois dire que...
Oui, je pense qu'il y a des très très belles scènes dramatiques à faire, avec des tronçonneuses, des enfants qui crient... Ah,
ne coupez pas l'arbre
j'avais tombé.
Je sens avec cette histoire de tatouage, là, au bras des 3e et 4e génération, eh bien, ces gens, ces 3e et 4e génération, ces descendants, vont se souvenir... de récits que leur avait fait leur aïeul, mais que l'aïeul n'a jamais osé raconter lui-même. Mais je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises, les gars.
Alors, juste avant qu'on enchaîne sur le deuxième point, mais là, c'est en aparté, c'est juste pour solliciter l'attention de nos auditeurs. Faut prêter attention à ce qui se passe entre la Pologne et la juiverie. Parce que l'appétit vient en mangeant, comme vous le savez. Les juifs, c'est pour ça qu'ils sortent bien leurs survivants, etc. Parce que les survivants sont d'abord et avant tout des ayants droit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui touchent. Il faut bien comprendre ça, hein, ce sont des gens qui touchent. À commencer par auprès de l'État allemand. Hein. Mais ils sentent que... Le filon s'épuise, c'est-à-dire que bon, le temps passe, réparation oui, mais bon, s'il n'y a pas de personnes qui ont subi ce qu'ils disent avoir subi, il faut trouver un truc qui soit plus
plus rémunérateur dans la durée. Et ils se tournent vers la Pologne. Et la Pologne, voici ce qui est en train de se passer. Et ils font un lobbying intense au Congrès américain, donc au niveau du Parlement américain, pour en promettant bien sûr à tous ces mecs-là une part du gâteau, hein, faut bien comprendre. Mais ils lorgnent les terres et les propriétés foncières des Juifs d'avant la guerre, en Pologne. Il y avait 3 millions de Juifs officiellement, blabla, ils se sont évaporés, on ne sait pas trop comment. Hein. Soi-disant, bien sûr, vous avez bien compris. Et donc, alors, leurs descendants, parce que c'est marrant, ils sont tous morts, mais ils ont des descendants, c'est toujours un peu... Et leurs descendants de New York et d'ailleurs exigent maintenant qu'on leur rende leur propriété foncière. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des tas de gens qui vivent sur des terres qui appartiennent nominalement à des Juifs. Et alors il y a un gros bras de fer dans la coulisse entre la juiverie et le gouvernement polonais pour les faire cracher. Pour les faire cracher. Reconnaître que n'importe quel youpin de New York machin est en fait le propriétaire légitime de telle ou telle parcelle. Et qu'à ce titre-là, il a le droit d'exercer son droit de propriété. Alors ça, c'est un très gros truc. Et mais c'est vraiment explosif. Ils ont évalué... Ils ont évalué... les juifs, les comptables juifs de New York, hein, on s'entend, ont évalué le coût. On est sur des centaines et des centaines de milliards de dollars de revendications. Hein.
Oui, c'est plusieurs années de PIB de la Pologne.
Ouais, voilà. C'est...
Oui, d'ailleurs, je me souviens, on en a parlé... Je ne sais pas si c'était dans une précédente émission ou en dehors, je n'arrive pas à me souvenir, mais j'avais vu un article où certaines organisations juives, américaines certainement, estimaient que le tiers, vous m'entendez, hein, le tiers des habitations de Varsovie avaient été confisquées aux Juifs et devaient être leur être rendues, du moins à leurs descendants.
Voilà, c'est ça.
Moi, je serais pour le fait que le gouvernement polonais se couche devant les Juifs de cette manière-là, à donner en pâture à son pays, à la juiverie internationale. Je pense qu'il n'y aurait pas mieux pour faire monter l'antisémitisme dans l'Europe.
Déjà, en Pologne, je crois qu'on verrait des scènes bizarres se produire en Pologne, je pense.
Oui, enfin, moi, je dis, ok, les gars, vous voulez ça? Pas de problème, allez-y les gars, c'est parti, démerdez-vous. Bon, ben, oui, parlons-en.
Et c'est pas un petit peu risqué, parce que les Polonais, ils auraient pas un peu des dossiers sur tous les bobards choatiques?
Ouais, ça pourrait mal... Disons que les Polonais ont bâti leur mythe national, justement, là-dessus. Si vous avez suivi, on a parlé longuement donc, de la sauterie holocaustique à Jérusalem. Si vous avez suivi, vous avez probablement noté que le Premier ministre polonais ne s'est pas déplacé. Il a boycotté. Il a boycotté parce que il a fait valoir un point qui est assez juste. Il a dit, écoutez, c'est la libération d'Auschwitz, ça devrait se passer à Auschwitz, c'est-à-dire en Pologne, et pas à Jérusalem. Donc, en quelque sorte, la marque, le gros lot choatique intéresse aussi beaucoup les Polonais, puisqu'ils ont bâti leur légitimité là-dessus, vis-à-vis de l'Allemagne notamment, et ils peuvent comme ça se poser en martyrs à égalité des Juifs durant l'Holocauste. C'est la narration officielle, quoi. Donc on est dans un jeu de pouvoir, hein, faut bien comprendre. Or, les Juifs disent...
Ce ne sont pas eux qui décident.
Voilà, alors les Juifs disent, attendez, vous êtes des sales goy pour commencer, ensuite vous êtes des Polonais, ce qui est pire, et ça ne vous concerne pas. Donc là, il y a une tension, parce que les Polonais sentent que non seulement, en fait, les Juifs... donc la juiverie internationale se débarrasse complètement de la dimension polonaise géographique de la question pour établir un monopole, bon, depuis longtemps établi, mais pour vraiment écarter toute présence, même symbolique, de la Pologne. Et les Polonais sentent, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant les Juifs, parce qu'on a parlé des revendications, mais maintenant les agences de propagande juive commencent à diffuser un peu partout une nouvelle narration qui disent que les Polonais sont autant responsables de l'Holocauste que les Allemands. Je ne sais pas si vous avez suivi ça.
Oui. J'appelle ça le Holocauste.
Le Holocauste. Voilà. Alors donc, c'est à dessein, c'est pour préparer les esprits dans le monde occidental et notamment en Amérique, préparer les esprits
aux revendications dont on a parlé. Donc ils font jouer ça, et les Polonais, ils sentent ça, ils savent ça. Les autorités polonaises savent ça. C'est-à-dire que les Juifs les regardent. Ils convoitent leurs terres, ils convoitent leurs comptes en banque, ils veulent bouffer le pays, c'est sûr. Et on veut les coller.
Les Juifs n'ont pas abandonné le rêve du Yiddishland.
Non, tout à fait.
Ils ont empoisonné des millions d'Européens de l'Est dans ces coins-là. Ça leur démange de reprendre.
Bon, tout à fait.
Déjà, ils ont déjà recommencé, mais ils voudraient reprendre leur entreprise dans des proportions qui soient convenables à la morale de Yahvé.
Donc voilà, donc il faut bien voir qu'on est au cœur d'une situation qui va avoir des ramifications très importantes. Quoi.
Si je puis me permettre une anecdote, Gandalf, à une certaine époque, je travaillais avec des Polonais. Et il y en avait un qui était véritablement le champion de la bêche, qui plante sa bêche et qui sent quelque chose. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il se retourne et il me dit avec un grand sourire, peut-être juif.
Quel champion, quel champion.
Alors messieurs, on continue notre pérégrination. Comme vous le savez, donc bon, les Juifs sont des gens qui nous veulent du bien. Ce sont aussi des philanthropes. Et puisque chez les Juifs, la philanthropie n'est jamais très éloignée du monde de la banque, je vous propose de parler avant d'en venir au cœur du sujet, de la dernière initiative philanthropique de la grande banque juive internationale Goldman Sachs, située à New York, mais avec des ramifications planétaires, comme vous le savez. Alors je vous livre, ça c'est le New York Post. C'est la nouvelle politique de Goldman Sachs, dont le directeur général David Solomon, donc Salomon, a déclaré que le géant de Wall Street ne fera entrer aucune entreprise en bourse, à moins qu'elle ne compte au moins un membre issu de la diversité dans son conseil d'administration. Dans une interview accordée jeudi à CNBC, M. Solomon a déclaré que la nouvelle initiative visera en particulier à faire entrer davantage de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. L'obligation d'avoir au moins deux membres différents dans les conseils d'administration 2021, a-t-il ajouté. Je regarde les introductions en bourse des quatre dernières années, les performances des introductions en bourse. Lorsqu'il y a eu une femme dans le conseil d'administration, aux États-Unis sont nettement meilleures que les performances des introductions en bourse où il n'y avait pas de femmes dans le conseil d'administration, a déclaré M. Solomon au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ainsi, à partir du 1er juillet aux États-Unis et en Europe, c'est pas limité en Amérique du Nord, et en Europe, nous n'introduirons pas une société en bourse à moins qu'il n'y ait au moins un candidat donc au conseil d'administration qui soit issu de la diversité et notamment qui mette l'accent sur les femmes. Dans une déclaration au poste, Goldman a annoncé qu'elle allait étendre cette politique à toutes les sociétés privées dans lesquelles elle tient une participation majoritaire. La banque a déclaré qu'elle donnerait à toute entreprise privée intéressée l'accès à son réseau de candidats potentiels au conseil d'administration. Aux États-Unis et en Europe occidentale, la nouvelle politique sera axée sur, je cite, « les groupes traditionnellement sous-représentés selon divers critères, notamment le sexe, la race, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, selon une source proche de la banque. » Bon. Qu'est-ce que... On va mettre un peu de nègre, un peu de... Est-ce qu'on va introduire de la diversité ethnique au sein de la direction de Goldman Sachs?
Et ou même, est-ce que les Juifs acceptent la diversité ethnique, ne serait-ce qu'en Israël?
Je veux pas tellement.
Ouais, ah. Mais ils ont quand même des trucs bizarres, des espèces de métis qu'ils ont refrogués à droite à gauche.
Ah, des fils esclavagistes qui descendent de Fanon, par exemple.
Oui, ouais, enfin, on en a à France Télévisions, là. Il y a un Youpin, un négro Youpin, là, qui s'appelle Aaron Tanzit, qui est un crépus absolument répugnant. Et tu as ces créatures-là qui sont issues de relations coupables entre des Youpins et des négresses. Donc il faut que ces gens-là, enfin ces gens, faut que ces animaux-là, ces prédateurs-là, aient une place qui soit oui. supérieure au goïm. Tu vois. Donc, les sociétés qui rechignent à mettre des nègres, des transsexuels, des trucs comme ça, dans leur conseil d'administration, eh bien, Goldman Sachs a un pool de candidats potentiels oui. À présenter. Donc, tu auras sur tes programmes les bâtards des cadres de Goldman Sachs ou des amis de Goldman oui, Sachs, ça. Qui sont très amis de Yahvé, qui seront proposés.
Disséminés, quoi, disséminés dans les entreprises.
Oui, ils seront proposés pour être au conseil d'administration où ils ne feront absolument rien. C'est-à-dire qu'ils seront là, il y a le jeton de présence. Donc
ils feront quand même un truc, ils surveilleront les blancs quand même. Hein.
Oui, puis ils prendront du pognon aussi en passant.
Ah oui, voilà, c'est surtout ça, ils prendront du pognon et ils rapporteront à la maison mère. C'est l'alliance de Frantz Fanon et de Mendes France. Oui. Encore une fois, c'est la même chose. Hein.
Mais je crois que Macron a voulu le faire, enfin c'était pendant dans ses promesses de campagne, dans toute entreprise de 1000 salariés, il devait y avoir un calcul, enfin c'était un index, hein, c'était pas vraiment de la parité pure. Mais les entreprises qui n'avaient plus de 1000 salariés, qui n'avaient pas l'index suffisant, devaient payer une pénalité qui pouvait aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Alors je ne sais pas si ça s'est fait, mais c'était déjà en cours bien avant cette histoire. Alors j'ai quand même beaucoup de mal à croire que la mixité soit un gage de rentabilité et de hausse de productivité. Je suis extrêmement sceptique face à ça.
Comment oses-tu douter de la parole de ce monsieur Salomon ?
Bah, je sais pas. J'ai bossé dans des environnements féminins. Enfin, c'est quand même pas des foudres de guerre les femmes. Elles sont peut-être plus obéissantes que les mecs en règle générale, mais question productivité. Enfin, c'est pas top quoi. Je préfère bosser avec des mecs maintenant.
Ouais, mais bon, et comment il faut bien que Rachel ait un boulot, hein.
Oui, bah c'est ça. Ouais, c'est... Ouais. On va recycler. Tout ça, ça sert surtout à recycler plein de nénettes en études de genre, en master machin, dans des postes dont qu'elles n'aiment
pas. Oui, mais
enfin,
attends, c'est spécifié. Ils disent qu'ils vont proposer des gens de leur. Donc déjà, c'est un boycott. Hein, c'est l'embargo. Donc ils décrètent l'embargo économique sur toute entreprise. Blanche, qui refuse de participer à la mise en minorité des Blancs, vous avez bien compris. Mais ils proposent leur réseau. Ils disent, voilà, on met à disposition notre réseau deux candidats pour leur conseil d'administration.
Ben bien sûr.
Quand vous analysez Goldman Sachs, dans tous les positions clés, c'est une banque juive, c'est tenu par des juifs. Donc ils disent, voilà, sauf à mettre nos juifs à nous dans vos conseils d'administration, c'est l'embargo économique, ou alors dans tel ou tel cas, voilà, tel mulâtre, tel machin, enfin voilà, une espèce de transsexuel, allez savoir. Mais c'est d'abord et avant tout de mettre leur pion à eux par la force de la coercition économique. Enfin, c'est juste hallucinant. Mais ça passe comme une lettre à la poste, parce que c'est fait au nom de l'antiracisme. Donc c'est de la prédation financière juive, maquillée en philanthropisme. Je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire.
Oui, bah, quand on a vu, après la crise... Des anciens de Goldman Sachs arrivés à la tête d'organismes étatiques ou européens, enfin au niveau des banques centrales. Alors on a eu Draghi, on a eu énormément de gens qui étaient au sommet de la Troïka, quoi, qui venaient de Goldman Sachs. Là, ils pourront le faire directement avec l'argument antiraciste. Pourquoi pas.
Alors, messieurs.
Mais on est bombardé de ça en France. Hein. Des articles, ils te disent oui, la productivité est décuplée lorsque des femmes et des nègres arrivent en entreprise. Enfin, quand tu lis un truc comme ça, tu te demandes dans quelle galaxie tu évolues. Ça, c'est évident.
Alors, messieurs, bon, après avoir parlé hein, de la mémoire et de la philanthropie bancaire juive et du bien qu'ils nous veulent, hein, on va parler d'identité. Et on va parler de conservatisme. Qui dit
nos alliés nationalistes.
Voilà, avec nos alliés nationalistes, et bien évidemment, qui dit conservatisme, dit Marion Maréchal Le Pen, qui est aujourd'hui la figure de proue de ce courant d'idées au contour encore assez vague, je dois bien le dire, mais qui se précise, les choses avancent. Et le nouvel Ops, d'ailleurs, contribue à cette clarification.
Cette révélation, oserais-je dire.
Oui, alors, Marion Maréchal se rapproche d'un nationaliste israélien. Ça, c'est le nouvel Ops qui nous en parle. L'ex-député FN participera à un colloque à Rome début février en présence de Matteo Salvini et de Victor Orban. Le politologue et théologien Yoram Hazoni, créateur de la fondation Edmund Burke, à l'origine de l'événement, l'a invité personnellement. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce Yoram Hazoni, donc un nationaliste israélien. Alors, vous imaginez bien que, déjà, si vous voulez, l'israélien moyen est un ultra-nationaliste, si vous voulez, déjà. Et lui, c'est un nationaliste israélien. C'est-à-dire que sur l'échiquier politique israélien, c'est un nationaliste. C'est-à-dire qu'il est très très à droite. Je vous laisse deviner à peu près où ça se situe. Wikipédia nous donne quelques éléments biographiques à son propos. Bien sûr, c'est lapidaire, mais ça nous donne quand même quelques pistes. Yoram Hazoni se dit nationaliste et il a écrit que le nationalisme confère de manière unique le droit collectif d'un peuple libre de se gouverner. Cependant, plusieurs critiques la théorie du nationalisme de Yoram Hazoni, soutiennent que celle-ci est théoriquement incohérente, etc. etc. Yoram Hazoni est un juif orthodoxe moderne. En 2014, il a écrit un article et exposé son point de vue dans Open Orthodoxy. Alors, donc c'est un juif orthodoxe nationaliste. Donc on a affaire
moderne.
À moderne. Donc en gros, c'est l'extrême droite religieuse juive israélienne. Bon. Donc là, on n'est pas juste dans le nationalisme, on est vraiment dans le suprémacisme d'essence divine, hein, Dixit, c'est-à-dire qu'il puise ses racines dans la Torah, hein, dans l'Ancien Testament. Donc Yahvé choisit son peuple, hein, le peuple élu, et lui confère le droit de dominer le monde. Hein, c'est le cœur, hein, de la théologie juive. Et c'est un théologien. Donc, alors j'aime bien, ils disent théologien. Alors,
théologie... Oui, il étudie la Bible.
Il étudie la Bible. Alors ouais. Non, il n'étudie pas les évangiles, il n'étudie pas le Nouveau Testament, il étudie bien l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, c'est un spécialiste de
oui,
la Torah.
Et pas n'importe quel Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible avec le livre d'Esther, par exemple. Hein,
voilà.
Ce n'est pas anodin. Hein, comme,
tout à fait.
C'est donc un rabbin, en fait, on peut dire.
C'est un rabbin. Oui, c'est un rabbin.
C'est un rabbin.
C'est un rabbin orthodoxe, nationaliste. Donc voilà, qui défend cette théorie-là. Alors ceci étant dit...
Peut-être a-t-il lu le Nouveau Testament, et au passage de la mort, voilà, de la mort de Jésus par la main des Juifs, peut-être a-t-il ricané, c'est possible, voilà.
C'est possible. Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui, bien que hein, se revendiquant donc de l'extrême droite religieuse juive, israélienne, a des réserves sur ce qui se passe dans le monde occidental. Parce que vous le voyez, à Rome, il entend bien inspirer différents partis, différents Matteo Salvini, par exemple, ou Marion Maréchal. Donc il a une définition du conservatisme, cet ultranationaliste juif, une définition du conservatisme, mais uniquement dans le monde blanc. Je précise, hein, ce n'est pas pour oui, Israël, c'est pour le monde
alors,
blanc.
Alors oui, c'est un discours qui est avec les juifs, quoi. Enfin, c'est une constante, c'est un discours qui est destiné à l'export. Hein.
Oui, voilà, c'est destiné à l'export. Alors, voici ce qu'il a dit sur Twitter, pas plus tard que cette semaine. On ne peut pas obtenir un point de vue sur la diversité dans le milieu universitaire en défendant l'étude des différences raciales dans l'intelligence. De telles études sont potentiellement intéressantes pour les racialistes politiques et les identitaires blancs. Mais la plupart des conservateurs n'y voient pas beaucoup d'intérêt. C'est pas très intéressant de s'intéresser aux histoires de QI, de race, c'est pas très intéressant. Et il ajoute, il précise, si vous voulez plus de conservateurs dans le monde universitaire, donc il répondait en fait pourquoi il n'y a pas de penseurs de droite influents dans le monde universitaire, mais ils ont tous été virés par les gauchistes. Donc il dit oui, là il y a des gens qui parlent de race, de QI, etc., mais c'est pas très intéressant et c'est pas le cœur du conservatisme. Et voici ce qu'il nous dit. Si vous voulez plus de conservateurs dans le monde universitaire, pourquoi ne pas vous concentrer sur l'embauche dans les domaines qui intéressent vraiment les conservateurs ? Embaucher des personnes qui étudient et enseignent la valeur de Dieu et des Écritures, la religion et la tradition, la nation et la famille, l'homme et la femme, l'honneur et la sainteté. Voilà. Donc arrêtons de parler de questions raciales, de questions génétiques, d'intelligence, de tout ça. Parlons Alors, les écritures, alors attention, hein, c'est oui. Pas les évangiles. Hein,
les écritures avec un grand E.
Voilà, donc c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. Donc il revient à son truc à lui, il dit non, il faut étudier ce que moi j'étudie déjà, c'est-à-dire la Torah, qui a un avantage extraordinaire, puisque elle proclame la divinité de la race juive et son droit de dominer le monde. Donc en fait, il dit aux conservateurs, perdez pas trop de temps avec des questions raciales. C'est un nationaliste juif radical qui croit donc à ce messianisme-là, hein, qui dit, voilà, non, pas trop ça, le vrai conservatisme, ça consiste à étudier Yahvé.
La Torah, tu es gentil, la Torah, ou le Talmud, ou la Kabbale,
oui.
Hein, c'est possible. Hein.
Oui, enfin, tu parles de l'interprétation juste de la Torah. Donc,
Ah bah oui, là, lui, là, à lui, je pense qu'il a une interprétation très
compliquée. Oui, parce qu'on parle d'un étudiant, d'un spécialiste de la Torah, spécialiste juif de la Torah, c'est un spécialiste du Talmud, hein, bien entendu, parce que la Torah ne peut se lire que convenablement. Par les
juifs. Oui, il peut y avoir que des juifs qui peuvent
comme on fait les rabbins, oui, par la Torah, le Zohar, voilà, et la Kabbale.
Alors du coup, simplement, je vous pose une question, là je vous sollicite tous. Alors, donc c'est cette personne c'est ce juif qui va organiser cet événement à Rome, bon, le symbole est là, il invite personnellement Marion Maréchal Le Pen, et il a très clairement posé les limites du débat et des orientations et la définition du conservatisme, car c'est donc ce juif qui va déterminer ce que doit être le conservatisme dans le monde blanc, hein, comprenez bien, hein, donc on a parlé d'exportation, c'est très clair, et donc le cadre est posé, et c'est là-dedans que Marion Maréchal se rend. Alors qu'est-ce que ça vous branche?
Alors moi ça me branche pas, bien évidemment, mais j'y vois quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que bon, ce type-là arrive un petit peu comme cheveux sur la soupe à inviter Orban et Salvini, qui sont tout contents d'avoir quelqu'un qui vient leur dire tiens, je suis ton copain, en gros, hein, ils viennent voir.
Alors c'est pas quelqu'un, non, ils sont tout contents d'avoir un juif qui vienne leur dire qu'il
est un juif. Oui, un juif. Voilà. Mais ça n'est pas tant Salvini et Orban qui sont importants dans cette affaire, puisque ce sont des individus qui ont quand même une base politique établie. Hein, l'un est président d'un gouvernement, l'autre est en passe de l'être. Hein, c'est un outsider qui devrait prendre la tête de son pays d'ici quelques mois. Non, ce qui est important, c'est le fait qu'on invite personnellement Marion Maréchal, ex-Le Pen,
cette réunion d'études rabbiniques, hein, voilà,
d'études rabbiniques, hein, Marion Maréchal, qui dont le père était un espion du Mossad, c'est public, hein.
Pourquoi tu dis que c'est intéressant? Parce que tu dis, voilà, Orban, bon, il est établi, Matteo Salvini est établi, Marion Maréchal, c'est non.
Parce qu'il y a, selon moi, en voyant cette manœuvre, cette approche de Marion Maréchal, qui est dans son trou, hein, qui est avec son école, avec des professeurs qui trucident des étudiantes.
Hein. Oui, tu parles du professeur russe qu'ils avaient invité, qui a assassiné, découpé, je crois, une de ses étudiantes. Oui,
qui a découpé en pleurant, mais il se promenait avec des bras dans son sac à dos. c'est particulier, hein, pourquoi pas, écoute. Donc, Marion Maréchal préside une école avec des professeurs qui se promènent avec des bras dans des sacs à dos.
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de chocolat, ouais, effectivement, merci Diabolix. Il y a une offensive. Il y a une offensive pour vendre quelque chose au goyim de France, hein, à nous, à vous qui nous écoutez, qui soit compatible, oui, qui soit dans la cacheroute, hein, comme même
comme la cacheroute,
la cacheroute, hein. Il y a Marion Maréchal, il y a d'autres rapuants d'Anatolie qui organisent aussi, hein, qui professent ce nationalisme bizarre. Hein.
Alors, moi il me paraît pas bizarre. Enfin, le nationalisme juif me semble au contraire être assez clair hein, sur ces
oui,
buts,
non, mais le nationalisme juif des juifs ne m'incommode en aucune mesure. Par contre, le nationalisme juif à destination des
oui,
Français
oui, voilà.
M'incommode particulièrement. Hein, c'est Meir Habib. Hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je me demande pourquoi Meir Habib n'est pas invité alors qu'il devrait être un représentant de choix hein, dans cette...
Oh, pas de mauvais jeu de mots, s'il te plaît.
Ouais, de choix. Pardon. Mes excuses au peuple élu, hein, comme dirait l'humoriste marron. Mais voilà, ça, j'y vois quand même une certaine anxiété de ce peuple... ce peuple malfaisant qui va jusqu'à chercher cette Marion Maréchal qui est dans son trou pour à tout prix faire en sorte qu'elle ait une importance politique. D'un côté, c'est inquiétant parce qu'on va clairement se taper Marion Maréchal dans les années à venir. De l'autre, le fait qu'on soit obligé d'aller la chercher... de monter un truc en épingle pour le compte des juifs, c'est-à-dire que les juifs ont peur. Et ça, que les juifs aient peur, ça me satisfait bien. Ouais.
Alors, juste pour qu'on sache de quoi on parle, donc cet homme est un nationaliste israélien. C'est un juif nationaliste israélien, juif orthodoxe, bon. Mais pour mesurer... De quel pays il provient ? Donc j'ai dit qu'il représentait l'aile nationaliste. Donc faut voir ensuite où est le curseur médian en Israël. Ben, je cite Haaretz, c'est tout frais il y a quelques jours, qui nous parle justement de ce qu'est le judaïsme en Israël, de comment ça fonctionne quoi. Alors Haaretz nous dit ceci : un panel de juges de la haute cour, donc israélienne, a rejeté la requête déposée par Avigdor Lieberman, Yisrael Beitenu et plusieurs requérants privés contre le grand rabbinat et les tribunaux rabbiniques, jugeant que les tests ADN pour prouver son judaïsme devraient être autorisés. La haute cour de justice a également statué que les pétitionnaires n'avaient pas prouvé que le rabbinat avait agi de manière discriminatoire dans cette affaire. Dans le même temps, la décision majoritaire a déclaré que le rabbinat devait formuler des règles écrites sur la question dans un délai d'un an. La décision majoritaire a été rédigée par le juge Neael Hendel, qui a noté que deux questions importantes étaient soulevées dans la pétition. Premièrement, le réexamen par le tribunal rabbinique du judaïsme d'une personne qui était déjà reconnue et enregistrée comme juive. Et ensuite, la réalisation de tests génétiques pour prouver son judaïsme. Donc, pour prouver le judaïsme de quelqu'un, c'est une religion particulière, hein, pour prouver le judaïsme de quelqu'un, pour savoir si cette personne est effectivement... religieuse, on va pas s'intéresser à ce qu'il pense, on va s'intéresser à la qualité de sa génétique. Hein. C'est ça qui va vraiment compter. Donc en fait, la religion juive est une religion raciste.
C'est une pour religion... le coup, ne pourrait ne pas nous déranger. Simplement, si on pourrait aussi être raciste de notre côté, il n'y aurait pas de souci. Et oui. Ça, c'est un problème très profond lié aux fameuses alias de l'État d'Israël. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi, demain, par exemple, Gandalf, qui est une énormité... Hein, quelqu'un te frappe très violemment sur la tête et du coup tu te dis je vais absolument faire mon aliya alors que tu es un goy et partir en Israël. Bah, la conversion au judaïsme dans la théorie elle est possible, d'accord, dans la pratique c'est quasiment impossible, ça ne se fait quasiment pas. Tout est fait d'ailleurs pour que tous les rabbins font tout pour que les gens renoncent, et même s'ils ne renoncent pas à la fin ils n'ont jamais la... Oui, de toute façon, même s'ils y arrivent, je veux dire, ils ont un papier, ils sont des citoyens de seconde zone, quoi. Il suffit de voir un peu l'épopée des fameux falachas, dont certains disent apparemment ce sont vraiment des juifs, etc. Bon, il y a un débat, pas faire le débat dans l'émission parce que c'est un peu lourd, mais enfin, c'est impossible, quoi. C'est une religion qui... Non, c'est pas vraiment une religion, pour le coup. C'est... ouais, effectivement, c'est un peuple... raciste, qui fait une sélection sur la base de l'affiliation par la mère, voilà. Et votre appréciation personnelle par rapport à l'existence ou non de Dieu, c'est anecdotique en fait tout ça.
Oui, ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire que Jacob Cohen, par exemple, donc l'activiste juif de gauche, qui est une sorte d'athée militant, on peut dire, hein, Par contre, qui appartient au peuple juif, bah, il est plus juif que, je sais pas, Gandalf, qui aurait voulu sincèrement se convertir au judaïsme.
Oui, enfin, sûr, tu peux prendre la fille de Trump qui s'est convertie officiellement. Voilà, c'est-à-dire que Cohen oui, est vraiment là, juif. Bon,
oui, parce que c'est. Il y a
du pognon, hein, c'est tout.
Il y a du pognon, il y a du pouvoir, donc là, ça passe.
Ça passe.
Mais. Oui, enfin, moi alors, c'est bien que tu parles de ça, Pierrot, du fait du judaïsme qui se transmet par la mer et puis rien à branler du reste. Moi, j'ai le cas d'un type qui est allé se maquer avec une youpine, une trentaine d'années. Hein. Il est allé lui faire deux gamins. Puis la nana, c'est comme le jour, on a eu marre. Enfin, c'est pas qu'elle a eu marre. Elle a dit oui, on va tous déménager en Israël. Ouais, d'accord. En fait, elle est partie en Israël avec ses deux gamins, avec tout le mobilier de la maison. Quand je dis tout, c'est tout. Hein, c'est-à-dire, même le grille-pain, tout. Et puis le type, quand il
même a voulu
partir en Israël, le type que le goy là, c'est qui avait payé pour tout, hein, qui avait fait les gamins, quand il a voulu se pointer en Israël pour salut c'est moi, non. C'est-à-dire que non seulement l'État ne le sait pas rentrer, mais ces gamins il les a plus, ça fait 30 ans que, enfin, 25 ans qu'il les a pas revus. Et puis voilà quoi, et puis ils avaient fait des crédits où ils avaient contracté des crédits en commun, compte commun, bien entendu, hein, qu'il a dû rembourser. parce que voilà. Ah non, mais c'est fait. Quelle race maudite, quoi. C'est vraiment terrifiant. Le type est dans un état. Il est détruit. Hein. Il s'en est jamais remis. C'est une race bizarre. Hein.
Voilà. Alors donc, là, moi j'ai parlé donc d'une décision de justice de la Haute Cour de justice israélienne qui définit très clairement que le judaïsme n'est pas une question religieuse au sens où nous on l'entend, un système de croyance, système moral, voilà, c'est strictement indexé sur l'appartenance ethno-raciale. C'est matériel et biologique, ça n'a rien à voir avec le monde des idées, hein, ou le monde des croyances. Donc ça vient, c'est du décorum, quoi. C'est sans intérêt. Concrètement, matériellement et légalement, en Israël, ce qui compte pour démontrer son judaïsme, c'est son sang. Et c'est de cette société-là que provient donc notre nationaliste Yoram Ozani, et qui dit, à l'adresse des Blancs, qu'il ne faut pas trop s'intéresser aux questions de génétique et pas trop aux questions raciales, qu'il faut parler des Écritures et de la Torah. Qui dit exactement quoi? Eh bien, ce que vient de nous dire la Haute Cour de justice, que la race élue est définie par l'ascendance biologique. Donc voilà, bon.
Ouais, c'est pas là, c'est qu'on a parlé du docteur Porro au début de l'émission, qui faisait des remarques, qui remarquait des trucs biologiquement. En fait, ce juif, ce qu'il te dit, c'est que non. Tu ne remarques rien, tu fermes ta gueule. On va d'ailleurs, Verlaine Jenny, le nègre du Cameroun, est français.
Il est conservateur.
Il est conservateur, donc tu la boucles, sale blanc, d'accord. Tu boucles ta sale gueule de goy. Tu acceptes ce nègre comme étant ton compatriote. Quelque part, tu peux lui filer ta fille pour qu'il se soulage dedans. Hein, ça ne serait que justice. Tu as colonisé sa famille.
Hein, et tu défends Israël quand même. Et tu défends Israël parce que c'est quand même un peu la fonction du conservatisme.
Parce que, oui, parce que le conservatisme. Parce que l'étude de la Torah, c'est comme ça que ça marche. Bon, Yoram Ozani, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'espère que je ne suis pas le seul à avoir du mal avec cet
Tu n'es pas conquis par sa définition du nationalisme à usage des Blancs.
Mais non, je ne suis pas convaincu. Je sais que je ne suis pas le seul à ne pas être convaincu. Je suis particulièrement heureux de voir des gens qui ne sont pas ravis de voir des rabbins qui viennent leur dire que non, Goy, ne te préoccupe pas de la race. Préoccupe-toi de ce qui est marqué dans le livre d'Esther pour te dire que c'est bien. Donc voilà. Et en France, nous avons quelques personnes, ils sont pas beaucoup, mais ils font un travail salutaire de médecine hein, par rapport à ce que peuvent.
Oui, un contrepoison, ils vendent du contrepoison.
Oui, nous avons des sorciers blancs qui procurent une médecine contre cet empoisonneur de puits qui est Yoram Azoni.
Je veux quand même souligner un truc, hein, c'est que encore une fois, c'est une gonzesse qui permet aux juifs d'empoisonner. C'est toujours la même chose. On en revient encore au même problème. Quelqu'un d'autre sur toute cette affaire ?
Oui, alors j'ai pas envie de décharger Marion Maréchal Le Pen, mais enfin ex Le Pen, mais il y a quand même surtout des millions, au moins des centaines de milliers de goy concon dans le milieu nation. Qui voit une jolie blonde et fonce la tête en avant, les yeux bien bandés, tout ça parce que, hein, on va pas se mentir, elle a un attrait sexuel. Hein. Donc c'est pas que la faute de cette gonzesse, c'est aussi de la faute des milliers de cocos, de gogos, goy, qui ne voient pas l'arnaque alors qu'elle est évidente.
Oui, c'est juste. Bah ça, c'est dû à la misère sexuelle ambiante. Hein.
Oui, j'étais très surpris de voir que dans nos milieux, encore beaucoup de gens adulaient Marion Maréchal ex-Le Pen.
Bah, tu sais, tu mets le nom Le Pen, il y a beaucoup de gens qui foncent. Hein. Je veux dire, ça reste très vrai. Hein.
Ça, ouais, c'est le drame du nationalisme en France.
Enfin, il y a le nom Le Pen, oui, c'est vrai, mais comme le dit Magda, il y a surtout
le truc sexuel, non, mais tout à fait.
La Cyprine, clairement.
qui d'autre
Vous vous souvenez de. Je ne sais plus, c'est les socialistes, je crois, qui avaient fait une blague, enfin un troll, en disant « Si tu m'aimes bien, rajoute sur ton bulletin de vote un petit cœur, comme ça, ça prouvera que tu as vu ce même. » Tu te souviens pas de ça ?
Non.
Oui, pour inciter les
électeurs du Front National. C'est pour les élections de 2012, je crois.
Oui, effectivement.
C'est un livre de La Réunion aussi.
Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau, mais ils ont quand même bien, bien calqué l'intérêt de beaucoup de gens pour Marion Maréchal ex-Le Pen.
Quelqu'un d'autre ?
À noter quand même que, comme cet extrémiste juif, Marion Maréchal ex-Le Pen se définit aussi comme conservatrice, voilà, des conservateurs. Qui est, comme tu l'avais déjà d'ailleurs relevé, Gandalf, dans une précédente émission, qui est une étiquette qu'on ne connaît pas ici en France. Il n'y a pas de gens qui se positionnent en tant que conservateurs. C'est juste anachronique, en fait, c'est hors de propos. De toute façon, rien qu'en fait dans le terme conservateur, genre, tu vois, le conserver le statu quo, quelque part, ça lui correspond bien, parce que de quoi parle Marion Maréchal, finalement, à part l'islam, juste l'islam ? Bon, bah, pas grand-chose.
Donc, elle en parle pas tellement.
Ouais, déjà, de base. Mais je pense qu'elle voudrait bien conserver, effectivement, tous les bougnoules et tous les nègres, du moment que, de temps en temps, ils chantent un peu la Marseillaise, et puis c'est bon, quoi.
Bah, je pense que la définition du conservatisme, telle que le rabbin Ozani nous la livre, est assez claire, et c'est celui de Marion Maréchal Le Pen, et c'est pas une extrapolation de ma part, puisqu'il la convie pour lui apprendre, hein, justement, les bases du conservatisme. Ça consiste à conserver... la suprématie juive dans le monde occidental. Voilà. Et ça passe par l'antiracisme, puisque l'antiracisme, c'est interdire aux Blancs de se défendre face aux assauts des races hostiles qui les colonisent, les envahissent, les attaquent en permanence sous l'œil narquois du juif, qui par ailleurs les excite avec sa propagande, avec Hollywood, ou par ses réseaux financiers, bon, on a parlé de Goldman Sachs, tout en les culpabilisant, là, on a parlé d'un énième menteur juif italien pris la main dans le sac à propos de cette arnaque au sujet d'Auschwitz. Donc, tout ça se tient.
Oui.
Tout ça se tient.
Mais, je reviens, je répète un petit peu ce que j'ai dit, je développe ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Le fait que ces juifs aillent chercher Marion Maréchal, qui est une tricarde, hein, au niveau de la politique à l'heure actuelle, ça démontre qu'ils ont des inquiétudes par rapport à la France, la France, où l'on passe des lois spécialement pour nous, hein, pour démocratie participative. La loi Avia, c'est pour nous, où on interdit notre site, par exemple. Il y a des inquiétudes de radicalisation sur l'Hexagone. Ça n'échappe pas à ces Hébreux qui font des reportages sur I24 aussi, par exemple. Sur nous, encore une fois. Donc, c'est... Oui.
On a même droit à CNN. Hein.
On a droit à CNN aussi, c'est vrai. Mais I24, CNN, la loi Avia, enfin, Taïeb Avia, qui a du mal à passer d'ailleurs, hein, bizarrement, dans la société.
Beaucoup,
c'est encore
oui.
un signe que les choses oui. ne se passent peut-être pas comme les Juifs le voudraient. Et là, Marion Maréchal, qu'on sort de son terrier où les professeurs découpent des étudiantes. Moi, je ne suis pas vraiment pessimiste. Hein. Quand non, je vois plus. Ce genre de nouvelles, quand je sens du désarroi hein, de ces Hébreux, de la part de ces Hébreux, et ça me met dans une joie particulièrement communicative. Donc j'espère vous la communiquer, chers auditeurs. Ces Juifs sont aux abois, faisant en sorte que ça continue.
Moi, tout ce qui a été dit m'a allumé une petite lumière quelque part. Vous savez, chez les goyes, c'est-à-dire chez nous, quand on est enfant, il nous arrive de mentir. Et puis, peu à peu, avec le temps, l'âge, l'expérience, et un petit côté moral quand même qui est en nous, fait que nous mentons de moins en moins et que nous essayons de ne plus mentir. Il y a quelque chose de déshonorant dans le mensonge. Je remarque qu'avec les Juifs, et Gandalf parlait de cet Italien, cet escroc, ce vieil escroc italien, eh bien, je m'aperçois que les Juifs ont cette particularité de porter le mensonge à très haut niveau en fonction de leur âge. Plus ils vieillissent, plus ils sont menteurs.
C'est très juste.
Ils ne font pas les choses comme les autres. Quand les gens vieillissent, normalement, ils deviennent plus sages. Enfin, oui, c'est la vie. La vieillesse va avec la sagesse, chez le juif ça va avec le mensonge. Ce sont des gens qui sont profondément sataniques.
C'est... Non mais le juif est le roi du mensonge.
Alors, en même oui, temps, oui, quand on salue, diabolique. Ça vient simplement de ta naissance, pourquoi avoir une morale en fait? Il n'y a pas besoin.
Et qui disait...
Quand tu es une parcelle, de divinité, oui c'est difficile.
Et qui disait, juif qui parle, bouche qui ment, c'est une citation célèbre.
Victor Hugo.
Bravo.
Victor Hugo était antisémite, oui.
En fait tous ça... ceux qui ont connu les juifs un peu sont devenus antisémites. Hein.
Oui, et puis de tout temps, enfin, je veux dire. Non, mais franchement, on va peut-être se séparer là-dessus, mais comment dire, là, la période qu'on vit, là, l'espèce d'obscurité où il est, où on ne peut pas dire les choses. En public, j'entends, sous peine d'un... On parlait d'inquisition hébraïque là, la semaine dernière, c'est ce qui est en train de se mettre en place. La loi Avia étant le dernier... Moi, ça me fait marrer avec l'affaire Mila. Permettez-moi cette petite digression, mais vous savez, il y a eu... Ah oui, mais en France, le blasphème est autorisé, etc. Le blasphème, en France, est interdit.
Non, non.
C'est interdit. Vous ne pouvez pas blasphémer à l'endroit de la race élue. Vous pouvez pas dire...
La religion chaotique.
Bah bien sûr, vous pouvez pas... ah oui, non, mais quand même, l'Holocauste, je ne sais pas, demander à Vincent Reynouard, jadis en son temps à Robert Forisson et à combien d'autres, etc. Non, non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas blasphémer sur l'idole de l'Holocauste, ni sur les Juifs. C'est strictement interdit. Voilà. Et on ne parle même pas de propos injurieux. Reynouard n'injurie personne, mais... contester, nuancer, non, c'est pas possible. Donc oui, le blasphème est en place, et oui, il y a une inquisition hébraïque, elle est de plus en plus féroce, il pousse d'ailleurs toujours plus, vous voyez bien les prises de position ici ou là, exigeant de reconnaître la définition d'antisémitisme écrite par les Juifs, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et pour en faire toujours plus dans le répressif. Donc, non, nous sommes dans un système totalement religieux, brutal, et ce que constatait nombre d'artistes, de poètes, de romanciers, de grandes figures politiques à travers l'histoire ne peut plus être dit. Alors qui a raison? Qui a raison entre toutes ces grandes figures de l'histoire, que ce soit l'histoire, enfin, l'histoire européenne, sur la question juive? Qui a raison? Ce sont eux, ou bien une poignée d'hébreux qui sèment la terreur parce qu'ils contrôlent les gouvernements occidentaux depuis 1945? Qui a raison? Moi, je fais plutôt confiance à des gens, effectivement, comme Victor Hugo, Schopenhauer et d'autres. Voilà, ça me paraît plus... Ou Cicéron. Parce que ça remonte jusqu'à Cicéron, attention, ça remonte jusqu'à la Rome antique. Hein. Les Juifs ne se sont pas fait connaître que ces 200 dernières années. Hein. Défavorablement, j'entends.
Oui, mais il y a quand même des gens qui nous disent que le problème, le nœud gordien des Européens, c'est le pacte pétrolier avec les pays arabes des années 70.
Alors ça joue,
des gens qui ont des gueules de Turcs, hein, il faut le dire, hein, des Turcs pour être gentils.
Bon. Non, le grand danger, c'est les Allemands, c'est les casques à pointe.
Oui, aussi, ah oui, ouais, il y a ça aussi. Oui. Ces autistes-là, oui.
Ouais.
Bon, ces autistes-là sont moins dangereux parce qu'ils sont moins crédibles, parce qu'ils ont moins des gueules d'intrigants orientaux. Les autres sont un petit peu plus...
quand même, on devrait se poser des questions, parce que le mec qui te refait le coup de l'antigermanisme en 2020, c'est culotté. Hein.
Non, mais tu as ça, les Auvergnats d'Anatolie, on a des gens de très, très distrayants hein, ces temps-ci. Ouais.
Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
À Hitler.
À la semaine prochaine.